Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est votre Gaïous, bienvenue, re-bienvenue pour les habitués sur TalkZone, l'hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse et de débat sur le plus grand club de France par le média MassiliaZone, en direct sur Twitch tous les lundis à 21h30, quand on est à l'heure, c'est pas tout le temps, en replay sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Dès le lendemain, ça c'est du service. Chaque semaine, je suis accompagné d'une bande de consultants à la connaissance pointue, avec qui on débriefe, on discute, on débat, dans le respect et des fois dans la bonne humeur. Ce soir au programme, vous voyez le menu se défiler pardon, en dessous pour ceux qui nous regardent. L'OM enchaîne enfin une deuxième victoire de suite. Les 3 points, et c'est tout. Est-ce que c'est le plus important, les 3 points au final? Cap sur l'Olympico, parce que l'Olympico. Les frères, c'est déjà après-demain, dans 2 jours. Avec moi ce soir pour en parler, un plateau de choix, comme d'habitude, même si effectivement il y a toujours des retardataires, on peut rien maîtriser, c'est normal. Faire une émission avec des Marseillais, voilà. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu plus de retard depuis le début. Quand même déjà au 9e épisode. Avec moi ce soir, je fais dans l'ordre alphabétique, pardon. Je commence par Alba. Salut Alba.
J'espère que tout le monde va bien. Tu pouvais me présenter en tant qu'invité vu mes nombreuses absences ces dernières semaines, mais je reviens avec beaucoup
Encore plus fort.
d'humilité et voilà, plus de force. Et je vais essayer de donner
Humilité.
ouais, avec
Comme
beaucoup
Edinson
d'humilité.
Cavani, c'est ça?
Voilà, humilité. Et je vais essayer de donner deux, trois, voilà, deux, trois avis intéressants.
Ouais, j'ai vu qu'il y a certaines sorties d'après-match hier qui ont
Ouais.
fait
Et pas
tiquer.
que hier, mais
Ah, bah c'est non, mais on va en parler, ça tombe bien.
ouais,
Parfait.
voilà.
Il y a aussi avec nous Ariles ce soir. Salut Ariles.
Salut, salut Yous, salut
Salut.
à tous. J'espère que vous allez tous très bien
On te
pour
réveille,
ceux
c'est
qui nous
ça?
écoutent.
Non,
Non, j'ai hésité à faire une Finkielkraut, t'as demandé si on était en direct.
là, oui,
Et
on est bien en direct.
oui, bah, du coup, on est bien en direct. J'espère que vous allez tous très bien, que ce soit ceux qui nous écoutent en podcast ou ceux qui sont en direct sur Twitch. J'espère qu'on va encore passer une belle émission.
Ouais, ça risque. Je pense que ça va être pas mal. Merci, merci d'être là, Ariles. Et puis, il y a évidemment Younes qui est avec nous. Salut Younes.
Bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous encore une fois, d'autant plus après cette semaine victorieuse.
Ouais, semaine victoire. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, eh ben, il y a eu 2 matchs depuis et il y a eu 2 victoires. Et puis le dernier, il était en retard. Vous avez pu remarquer son, vous avez pu voir son petit nom apparaître pop au milieu des 4 autres. Salut optimiste. C'est marrant que ça soit toi qui soit en retard. Je pense t'étais la caution normalement républicaine de ce podcast, mais.
Oula, oula. Après, c'est peut-être plus drôle de faire des blagues du genre que de parler de l'OM, pour le
Ouais,
coup.
peut-être.
Mais au-delà de mon nom qui est secondaire, c'est surtout cette photo de profil que j'arbore qui peut faire du bien, ou justement à l'inverse, faire beaucoup de mal quand on voit l'OM actuel. Mais effectivement, j'ai été en retard. Merci de
Non,
le
mais
faire remarquer.
t'inquiète. T'as attrapé le wagon en marche.
En retard,
J'ai.
comme la philosophie de Gattuso, en retard de 2 mois et demi.
Ouais, ça commence à faire. Ça commence à faire un peu longtemps.
Ouais,
Gennaro.
ça fait
Ouais.
pas mal.
Mais merci à Yanis dans le chat qui est active et qui nous rappelle que Igor Tudor, référence à ta photo de profil, n'aurait jamais accepté ton retard.
Et il aurait bien eu raison. Mais il aurait surtout pas accepté mes pieds, je pense,
Ouais, oh, tu
au-delà de ça.
sais, oh. Je pense
Ouais, c'est
que.
pas si important. Si je cours, ça va, non?
C'est ça. Donc, je suis content de vous avoir avec moi là. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une petite semaine d'invincibilité, puis avec un enchaînement de victoires. L'OM a gagné 2 matchs de suite, du coup, comme j'ai pu le dire en intro, et comme je le redis, pour la première fois cette saison, et ça faisait un petit moment, hein, même en fin de saison dernière, c'est pas arrivé sur la fin. Et du coup, après un match assez moyen, si je puis dire, en termes de contenu, pauvre en occasion, mais riche en réussite, l'OM sera sûr comptablement, mais pas forcément dans le jeu. Désormais, il n'y a plus que 10 points d'écart avec la troisième place, potentiellement, après une victoire contre l'OL dans 2 jours. On en parlera à la fin de l'émission. Il n'y aura plus que 7 points d'écart avec l'AS Monaco. Alors, Est-ce qu'on regarde en haut pour de bons optis, vu que t'es le dernier, je suis désolé, bah voilà, ça tombe sur toi, c'est toi qui va commencer, l'OM enchaîne enfin. On reste global sur ce sujet, on ira en détail sur sur le contenu, sur le jeu, sur les individualités dans le deuxième point, mais là du coup, concrètement, voilà, l'OM enchaîne enfin. Toi, je sais que bon, pour rien vous cacher, hier soir on s'est couché très tard et on a regardé une partie du match, re-regardé une partie du match ensemble avec Opti. Et
Et
il
on a
était
regardé
assez
le
content de ce
classement.
qu'il voyait, hein. Je le
Non.
balance. Non, je regarde.
En fait, je l'ai revu. Et en fait, je ne sais pas ce que c'est mon référent. Si mon référent, c'est l'OM des matchs d'avant, je ne sais pas, en vrai, peut-être c'est juste
Mais c'est
le.
peut-être ça en fait,
Oui.
ouais.
Si l'OM, c'est mon si mon référent, c'est les matchs d'avant, et que je prends les individualités une par une, je trouve que. Enfin, par rapport au match de l'Ajax, tu vois, je pense que je préfère le match de Rennes. Je préfère
Ah
le
ouais?
match de
Ouais.
Rennes. Mais c'est pas non plus. Enfin,
C'est
il y a
pas
tellement
éclatant.
de. Ouais, c'est pas éclatant. Et même, il y a des trucs qui. Tu vois, au bout de 10 minutes, tu tiques sur des choix de Gattuso que tu n'arrives pas à comprendre. Et tout au long du match, tu te les infliges. Mais ouais, est-ce qu'on regarde en haut, pour revenir à la question de base, est-ce qu'on regarde en haut, est-ce qu'on regarde en bas?
Toi, t'es un optimiste, donc t'es obligé de regarder en haut déjà.
Ben, en fait, on a gagné. Rien que tu gagnes un match, tu gagnes 3 places, tu vois. Genre là, tu joues Lyon qui est dernier, tu vas gagner une place et tu vas revenir à 3 points de Reims. Enfin, ça va tellement lentement que tu as l'impression qu'avec la fin de phase à l'Ecta, tu peux, malgré ton jeu pauvre et des matchs qui sont plus longs les uns que les autres, tu as l'impression que tu peux arriver 5e, 6e à la fin de la phase aller et être pas si loin que ça des équipes qui, elles, pour le coup, tournent bien et sont agréables, tu vois, au-delà des résultats qui sont en discontinu pour certains. Tu seras pas loin d'eux alors que normalement, si le foot était logique et que. Si le foot était logique, tu dois être à des années-lumière d'un Lille, par exemple. Genre, c'est pas normal. Quand tu vois l'identité de Lille et ce que fait Fonseca, tu te dis, mais comment tu es potentiellement à 6,2 mercredi, alors que toi, tu as enchaîné deux coachs et que sous les deux coachs, les
T'attends
mi-temps
toujours, ouais.
les mi-temps aboutis depuis le début de saison, il y en a, je sais pas, je sais même pas s'il y en a 5, tu vois.
Franchement, c'est chaud, hein. Vraiment. Clairement, ouais, allez, des mi-temps aboutis, un peu plus que des matchs, ça c'est clair.
Ouais,
Mais.
des mi-temps, mais même en comptant en mi-temps, tu vois, même en comptant en mi-temps, Allez, vas-y, ouais. Déjà, t'en as pas 10, tu vois, alors que t'en as joué combien? 30 peut-être déjà.
Ouais. Non, non, c'est clair. C'est clair que ça te laisse présager quand même des. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas une fin de saison un peu meilleure, hein. Clairement, si tu te rapproches de ce podium juste avant la trêve d'hiver, t'as peut-être des ajustements qui peuvent être faits. Et puis,
Ouais,
on verra.
Mercato, tu vois.
Ouais, non, c'est
À
clair.
voir.
Younes. Voilà, on a vu un beau match de foot ensemble samedi soir. Est-ce que t'as vu un match tout aussi beau hier soir?
J'aurais aimé, hein. J'aurais aimé que notre Olympique de Marseille ait des principes de jeu aussi marquants que ceux du Red Star qui domine la tête des épaules contre le championnat national. Malheureusement,
Et
c'est
qui
pas
pas
encore le
voir un
cas.
Red Star, hein. Qui pas voir pour les curieux et pour les amoureux du foot.
Du foot et de l'ambiance aussi quand même, hein,
Ouais,
ça
ouais.
a souligné.
Non, pour un tout, hein, vraiment, t'as ce proximité avec les joueurs, parce que c'est comme un petit stade, une ambiance authentique qui est de vrai passionné, un cop qui met l'ambiance, et sur le terrain, vraiment. Voilà, du beau. Je sais qu'il y a des fans d'Igor Tudor ici, et ben je pense qu'ils se retrouveraient dans certaines séquences de cette équipe du Red Star. Parenthèse
Ouais,
fermée.
et on a le droit d'espérer pour juste avant de fermer la parenthèse, on a le droit d'espérer qu'Habib Bey vienne
Ouais,
déployer ce beau jeu un jour chez nous.
et tu fais bien d'en parler, parce que pour rebondir sur Bey, en vrai, C'est une rumeur qui avait apparu il y a quelques années. On en parlait et puis les gens étaient en droit de se dire, ouais, c'est bien, il est sympa. Quand il commente sur Canal, des fois, il a des bonnes analyses, mais là, on parle d'être entraîneur. Et bah, clairement, là, il mérite potentiellement d'être sur une liste, s'il y a une liste, pour les prochaines années, en tout cas, je pense, avec le
Ouais,
travail qu'il
clairement,
fera, etc.
faut saluer le travail qu'il a mis en œuvre et surtout l'humilité, je pense, dont il a fait preuve. Ça se retranscrit même dans ses commentaires, je trouve, qu'on l'écoute encore sur Canal+, et il est quand même beaucoup plus profond, lui qui était un peu un robinet d'eau tiède par moment
C'est vrai.
à une période sur Canal. On sent qu'il est beaucoup plus profond dans ses analyses, il comprend beaucoup plus de choses, donc je pense que l'entraîneur qui a beaucoup travaillé. Mais du coup, revenons-en à Marseille. Moi, j'allais dire, bah, du coup, deux victoires, 6 buts marqués en 2 matchs. Je pense qu'on aurait signé direct la semaine dernière si on nous l'avait proposé. Hein. On va pas faire les fines bouches, mais dans les faits, il y a beaucoup de choses à dire. Donc je vais faire une intro rapide pour qu'on puisse tous parler et on développera les points après. Mais sur le contenu, j'ai lu, entendu beaucoup de critiques sur l'OM. C'est un peu ce qui résonnait à la fin du match et honnêtement, à juste titre. Mais en fait, je pense qu'il faut bien cadrer les attentes qu'on peut avoir de cette équipe et surtout là où on doit placer le curseur parce que. Je pense qu'il faut impérativement faire le deuil de la dernière saison, et particulièrement la dernière, parce que si on garde ça en référence tout le long de l'année, j'ai bien peur qu'on passe nos lundis en fait à déprimer et à critiquer l'OM toute la saison. Donc en fait, je pense qu'il faut juste accepter qu'on a un OM complètement différent, qui est plus limité, qui est moins protagoniste, qui est aussi moins ambitieux. Et une fois qu'on a accepté cette idée-là, je pense qu'on peut se dire que l'OM, bah, ils ont réussi à battre deux adversaires qui étaient autant en difficulté que nous. C'est un peu un duel d'infirmes, hein, que ce soit contre l'Ajax ou contre Rennes. C'est un
C'est
peu
ouais, trois
malheureux.
équipes malades au final.
C'était un peu malheur au perdant. On a vécu cette situation-là déjà il y a 2 semaines contre Lens, où pour le coup c'était un peu la même situation. Lens avait quelques bonnes prestations avec des champions, mais en Ligue 1, ça a pédalé un peu dans la semoule. Et finalement, depuis ce match contre l'OM, c'est allé un peu mieux pour eux. Donc on peut espérer la même suite pour nous. Et je trouve qu'on a en plus des faits de jeu favorables. Que ce soit jeudi ou hier, on a quand même été assez vernis et c'est assez rare pour être souligné. Et d'ailleurs, je me faisais l'impression que c'est marrant parce qu'en vrai, je signe tous les jours pour avoir l'attaque de l'Ajax à l'OM. J'ai adoré leur prestation offensive jeudi. Et je signe encore plus pour avoir le système que Stéphane a mis en place hier contre nous, où on avait vraiment une défense à trois avec Bourigeaud et Truffert qui étaient très bien écartés dans les couloirs et beaucoup de jeux à l'intérieur avec Gouiri, Terrier, Lefebvre, Matic et Santamaria dans une moindre mesure. Donc j'espère que Stéphane a oublié son tableau noir dans le vestiaire et surtout que le service de ménage du stade ne l'a pas nettoyé ou jeté. Parce qu'honnêtement, avec notre effectif, je pense que ça semble très approprié comme système de jeu.
Bah, d'ailleurs, tu parles de système de jeu. Peut-être que on peut en parler dans cette partie-là avant de revenir sur le match, parce que je sais que c'est une discussion qui revient pas mal. Il y a de plus en plus de supporters qui veulent un retour, un système avec trois défenseurs centraux. Et on l'a vu au final hier sur la fin du match, une fois, ironiquement, une fois que l'OM est passé à 10. Je sais, voilà, Opti va en parler dessus, mais vu qu'il a déjà parlé, je voulais juste interroger Alba et Ariles qu'on peut encore parler. Est-ce que toi, Alba, je sais que toi, Alba, je sais que toi, t'as grandi avec la Serie A, t'es un grand fan de Walter Mazzarri. Et est-ce que. Du coup, toi, un système à 3, c'est voilà, ça te parle. Ça te
Ben ouais,
parlerait.
personnellement, oui, ça me parle parce que, comme tu as dit, on a été biberonné au football de Walter
Je
Mazzarri plus jeune.
rigolais pas quand je lui dis ça.
Non, mais après, plus sérieusement, ben
Je
moi,
me permets une intervention. Du coup, on est en présence de gens qui sont contents que Mazzarri ait piqué le poste à Tudor pour un CDI,
non,
pour un CDD. C'est ça, du coup.
c'est une honte.
C'est
Ça,
ça
c'est un
les
autre
gens qu'on.
sujet, mais c'est une honte.
C'est un coup bas
D'ailleurs, je viens
à
de
la
voir
corporation.
une action
Je l'ai vu
de
aussi.
Napoléon. Oh là là, waouh, la
On n'est
frappe.
jamais déçu que par les gens qui sont à côté et les gens en face, ils peuvent pas me décevoir.
C'est toujours comme
Non, mais
ça, tiens.
franchement, pour revenir au schéma à 3, moi, j'étais pas forcément d'avis qu'il fallait obligatoirement repasser sur une défense à 3. Pour moi, c'était une question qui pouvait se poser naturellement parce qu'il y a la continuité de la saison dernière. Et aussi, c'est une manière aussi de te faciliter le travail en soi parce qu'il y a des repères pour les joueurs. Mais au-delà de ça, tu manquais quand Gattuso y revient, tu manquais beaucoup de certitude, notamment défensive, même s'il y avait des choses qui étaient plus ou moins bonnes. dont on va sûrement parler après. Mais tu avais un problème, c'est que tu concédais, je trouve, énormément sur Marcelino, alors que c'était censé être vraiment l'axe où Marcelino allait apporter quelque chose. Et quand Gattuso il arrive, je me dis peut-être que l'idée, ça serait intéressant de repasser à 3 directement pour retrouver un semblant de solidité. Finalement, il a pris le pari de mettre en place autre chose. Et oui, et plus ça avance, et plus toujours cette idée, elle a émergé, je pense, dans la tête de beaucoup de gens, dont Opti en particulier et d'autres personnes. Et même, ça a été sujet pendant sa conférence de
Conférence de
presse,
presse.
grâce à Nono, merci Norgine,
Merci d'en dire qu'on salue, frère.
qui a posé la question à Gattuso. Et voilà, ses réponses ne me convainquent pas. Et je pense qu'au début, c'était hors de question pour lui, mais. Déjà, on a vu des bribes hier, mais petit à petit, l'idée commence à émerger. Et pour moi, c'est une solution, c'était et c'est encore une solution de facilité pour tout le monde de passer à trois. Ça met tout le monde dans les meilleures conditions.
Bah, c'est ça en fait. Okay.
Ça te permet d'avoir trois défenseurs centraux qui ont l'habitude de jouer dans ce schéma-là et en plus qui ont plus ou moins le même niveau. Et c'est une des rares certitudes que tu as dans ton équipe, c'était trois défenseurs centraux. Et c'est dommage de t'en priver de un à chaque fois. Et après, pour tout le reste, ben, ça te permet de reaxer Ilman et Harit, peut-être d'avoir un Coréen un peu plus intéressant, pas utile, mais plus intéressant, et de retrouver certains repères. C'est aussi ça. Donc après, j'espère que cette idée, elle va faire son trou et qu'on va l'avoir plus que 10 minutes à 10 contre 11, à 11 contre, à 10 contre 10, pardon. Et que voilà, ça va devenir aussi un système de référence, peut-être.
Ouais, non, mais ouais, c'est pourquoi pas, parce que ouais, c'est comme tu dis, hein, ça permettrait de voir les joueurs, pas, enfin, quand je dis à leur poste, pas forcément à leur poste, mais en tout cas dans des positions préférentielles. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il en parle souvent en conférence de presse, c'est qu'il le dit, oui, j'ai lui, mais lui, c'est un joueur d'axe, lui aussi, c'est un joueur d'axe, on manque de joueurs de côté, bah,
Bah,
tiens, tiens!
t'as cassé. Il faut supprimer les joueurs de côté, cousin, tout simplement.
Donc ouais, t'as des latéraux, je sais pas, t'as un super piston droit, bah voilà, t'as un mec comme ça qui peut te manger la ligne de l'autre côté, enfin je sais pas, t'as peut-être un truc à
Mais
aller
t'as plein
chercher là-dessus.
d'ajustements, même si tu veux pas rester sur une défense à 3-5, tu peux faire un schéma asymétrique, c'est pas non plus
Ouais, y a des entraîneurs qui font ça, j'en connais un
il y
qui
a
était
plein
là il y a pas
de choses.
longtemps d'ailleurs.
Bah, bien sûr, il y a plein de choses à pouvoir faire. Il faut juste creuser la tête. Après, si monsieur veut pas se creuser la tête, ça c'est son
Ça,
droit.
c'est autre chose. Mais après, il faut pas mentir aux gens, quoi. Il faut pas arriver en conférence de
Exactement.
presse et dire ouais, j'ai du respect pour Marcelino, mais moi, c'est un autre football. Enfin,
Exactement. Alors qu'au
faut...
final, enfin, Marcelino, enfin,
Il y en a qui le regrettent.
peut-être.
Tiens, pour ceux
Non.
qui pour ceux qui nous regardent dans le chat, enfin non, dans le chat, sur Twitch en direct, on va lancer un sondage pour savoir votre avis, pour avoir votre avis par rapport à Marcelino et son départ, enfin surtout au regard du choix Gattuso, de ce qu'a fait Gattuso depuis qu'il est là. Et du coup, voilà, Marcelino, c'est 3 matchs avec Villarreal, 2 victoires, un match nul pour le moment. Dont une victoire contre le Panathinaikos, d'ailleurs, pour ceux qui savaient pas. D'ailleurs, mon maillot, autre chose, hein, pour ceux qui nous regardent en direct, mon maillot est un. Il y a une petite référence à l'OM dans mon maillot, bon, au-delà du mec qui est derrière, parce que voit pas.
Oh, il est très très beau, hein.
Voilà, celui qui est derrière, voilà, vous connaissez. Non, il y a une petite référence, c'est un petit jeu de mots, je vous laisse chercher pour les plus malins. Il y a un petit charade, enfin non, pas charade, c'est pas ça, c'est pas un charade. Mais enfin bref, il y a un petit, voilà, un petit message caché pour ceux qui sont amis.
Un rébus.
C'est pas un rébus, mais c'est une petite référence à l'OM et un sujet d'actualité du moment par rapport à l'OM. Hein. Mais je vous laisse réfléchir pendant qu'on parle. Harryless, on n'a pas entendu Harryless depuis le début de. On n'a pas entendu Harryless depuis le début du podcast. Harryless, toi, ton regard sur le match, on parlait du match globalement. L'OM enchaîne. Satisfait de ce match globalement? Non, oui. Voilà, c'est ça, toi.
Personnellement, ce que j'attendais des 2 matchs de la semaine qui vient de passer, où, Rennes et aussi je prends en compte quand même l'Ajax, vous l'avez aussi fait. Moi, c'était surtout le résultat que j'attendais, parce que depuis le début de saison, des victoires, on n'en a pas eu énormément. Alors, 2 victoires d'affilée, c'est quand même bien sympa. Maintenant, je trouve que même si le résultat était primordial et qu'on ne pouvait pas se permettre de ne pas enchaîner, enfin de pas gagner ces matchs-là, quand tu regardes l'adversité qu'on a eue, notamment sur le match de l'Ajax, parce que quand même Rennes, c'était... j'ai pas trouvé qu'ils renvoyaient l'image d'une équipe qui était en crise, ce n'est sur leur inefficacité offensive. Je trouve qu'ils ont quand même. Je trouve que le match contre l'Ajax est quand même un poil inquiétant, malgré tout l'optimisme que j'avais affiché lorsqu'on parlait du bilan de Gattuso à son arrivée. Je trouve que le match contre Rennes également, dans ce qu'a souligné Alba, le manque de solidité défensive, est aussi un tout petit peu inquiétant, même si paradoxalement, je crois que Rennes n'a pas cadré une frappe. Ils tirent 10 fois, ils en cadrent pas une. Je trouve que quand même, je reste énormément sur ma faim, parce que dans le contenu, je trouve que les deux matchs sont pas... Même si c'est mieux que ce qu'on avait, ce qu'on a eu sur les deux mois précédents, je trouve que c'est quand même très limite. Surtout quand tu sais que t'enchaînais là en une semaine et demie trois équipes en difficulté comme la Kiunes, surtout trois équipes qui ont changé de coach sur le dernier mois, si je dis pas de bêtises. L'Ajax, je sais pas si c'était il y a deux mois ou si c'était sur le dernier mois. Moi, j'ai trouvé les prestations collectives un petit peu inquiétantes, mais peut-être que, comme l'a dit Younes, bah, dans ma tête, je m'attends encore à un OM solide qui maîtrise ses matchs comme l'OM de Tudor, comme l'OM de Sampaoli l'a fait pendant deux mois. Peut-être que je m'attends à quelque chose comme ça, et en fait, je n'arrive pas à être réaliste et à me dire que bah, l'OM de Gattuso, dans la situation actuelle, ça, à quoi je dois m'attendre. Maintenant, juste pour revenir rapidement sur le match d'hier soir contre Rennes, je trouve que l'inefficacité des Rennais joue énormément dans le déroulé du match, même s'il y a aussi quelques événements là, avec les deux cartons rouges. Et je pense que, comme moi, vous les avez tous trouvés brouillons, notamment lorsqu'ils arrivaient dans les 30 derniers mètres. Il y a eu énormément de mauvais choix, énormément de maladresse technique, et ça a énormément joué. Et peut-être qu'avec une équipe qui est un peu plus en confiance en face, le résultat n'aurait pas été le même. Néanmoins, je trouve qu'on a vu quelques séquences intéressantes avec ballon. Notamment, je trouve au moment où, je ne sais pas pourquoi, mais au moment où Amir Mourinho est rentré, j'ai trouvé que l'OM avait un peu plus le pied sur le ballon. Ça rimait avec un peu la montée en puissance d'Unai qui avait énormément de mal en première période. Mais même malgré ça, est-ce qu'on peut se satisfaire de 10-15 minutes où tu as un peu mieux, où tu as un peu plus le pied sur le ballon, quand tu te rappelles qu'en première période, il y a vraiment des situations où tu subis énormément, où tu as deux doigts de rompre, et si tu n'as pas ce pied de Gigot, tu n'as pas ce pied de Mbemba, tu prends ce but. Moi, j'ai un sentiment assez mitigé, parce que le résultat est là, mais franchement, dans le contenu, je suis pas du tout satisfait.
Bah écoute, tu vois, on parlait des faits de jeu, et c'est là qu'on, je pense qu'on va aller plus en profondeur par rapport au match et passer au deuxième sujet en parlant des trois points. J'introduis vite fait, si l'OM des débuts de Gattuso a pas forcément validé le peu de matchs corrects que tu avais dans le contenu, le match d'hier c'est un peu l'inverse, j'ai l'impression, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et d'ailleurs Gattuso en conférence de presse hier soir, il dit avoir été déçu du match, alors que bon, son dépositaire du jeu, Amin Riki Kaka Harit, lui il avait trouvé que le match était le match le plus abouti de l'Olympique de Marseille. Je vais vous demander chacun votre avis plus concret hein. Dans ce match, focus sur les individualités, mais sur le contenu avant tout. Tu parlais des faits de jeu, Ariles. Avant le carton rouge, l'OM, c'est deux frappes au but. Et c'est du coup le pénalty d'Aubameyang. Et la frappe, si on peut appeler ça, d'Unai, sur la séquence où Harit met un quart d'heure à déclencher avant de lui donner, qui ne voit pas Illiman. Et c'est Unai qui fait une frappe à 25 mètres sans jus. Ouais, concrètement, avant ce rouge qui, on peut se le dire, a bien facilité les affaires de l'OM, bah, tu crées très peu au final. Je te laisse rebondir du coup plus en détail par rapport au contenu. Ariles, toi, tu, d'une certaine manière, est-ce que t'en attends encore plus ou même si effectivement t'es dans l'optique de te dire que dans une Ligue 1 comme ça, en vrai, ça peut le faire ou au vu de la situation d'avant, il y a quand même du mieux. Enfin voilà, toi, c'est quoi ton regard sur le match d'hier?
Et bien, si on parle en termes de contenu, comme tu l'as dit, il y a le contraste avec les débuts de Gattuso, ou quand même sur certains matchs, je pense notamment au Havre, à domicile, le déplacement à Nice qui n'est pas forcément mauvais dans le contenu, parce que quand on parlait de solidité défensive, je trouvais qu'à Nice, on l'avait, contrairement à dimanche soir contre Rennes. Mais clairement, tu peux faire beaucoup mieux. Mais enfin, déjà, avec Ballon, je trouve que tu peux faire beaucoup mieux. Après, moi, je me pose quand même la question de l'équilibre. Tout à l'heure, Alba, il parlait du passage de Marcelino. Je trouve qu'il y a quand même un problème récurrent avec cette équipe, c'est-à-dire qu'on l'a vu dans plusieurs configurations. Déjà, il y a très peu de matchs, très peu de mi-temps où on a dominé notre adversaire. Moi, j'en vois que 2-3 cette saison, et encore. Mais surtout, qu'on soit protagoniste, qu'on aille chercher notre adversaire en pressant ou qu'on soit en bloc bas. Le problème de la solidité défensive, déjà, c'est un gros souci. Et de ce point de vue-là, je peux comprendre aussi ce qu'on a eu en termes de contenu sur le dernier mois, avec le fait que Gattuso, il est un peu tout mis sur le fait d'essayer d'être solide défensivement. Mais quand on voit le résultat sur un match contre Rennes, enfin, sur le match contre Rennes, je trouve que finalement, il y a pas énormément d'évolution. Tu l'as dit, on a tiré 2 fois avant le carton rouge. Moi, je me rappelle vraiment pas d'action. Le penalty, c'est la seule transition que tu joues bien. Bon, j'ai envie de dire que tu la joues bien parce que Harit, c'est une des rares transitions sur les derniers matchs où il fait vraiment la passe dans le bon tempo et aussi Ndiaye est très important sur l'action. Mais le reste, c'est quoi? Le reste, c'est Rennes qui s'installe dans ton camp, c'est Rennes qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est à un centre, un dribble de Lefebvre, un bon geste de Guiri de faire en sorte à ce que. Il est but, quoi. Et tu as toujours ce geste de gigot. Moi, je trouve que franchement, dans le contenu, on peut tellement mieux faire. Moi, déjà, juste par rapport aux sorties de balles, la manière dont on ressort. Hier, il y a eu énormément de séquences où tu avais gigot qui essayait d'allonger sur Aubameyang, où ça ressortait pas forcément proprement. Peut-être parce que, je sais pas, les qualités de relance de Balerdi, elles te manquent énormément. J'ai vu aussi. Enfin, c'est le signe des équipes qui ne sont pas en confiance, mais énormément d'erreurs techniques. Ounahi Clos, le nombre de ballons qu'il perd sur les 30-40 premières minutes, il y en a quand même pas mal, alors que Clos, justement, c'était le joueur qui, sur les 2 derniers mois, était au-dessus des autres. Tu peux clairement.
Le match un peu moins bien close, tu peux pas t'en empêcher hein, d'être sur ses cotins.
C'est fou,
Non,
hein? C'est
non,
grave.
mais. Non, mais c'est même pas une question d'être sur ses côtes, mais justement, ça m'a choqué par rapport au dernier match, le fait qu'il ratait énormément. Et c'était souvent, en plus, bizarrement, les passes entre Klose et Unai, où il y avait pas mal de pertes de balles. Et c'est là où, par exemple, la rentrée de Murillo en deuxième période, bah, ça apportait un joueur qui faisait moins d'erreurs techniques, j'ai trouvé.
Est-ce qu'il y a peut-être aussi le fait qu'il y avait un mec en moins en face qui a pu
Il y
jouer?
avait aussi un mec en mou en face.
Je sais pas. Hein.
Après, le mec en moins, il n'y est pas direct. Mais moi,
Bah, c'est quoi? 53e, non? Un truc comme ça?
61.
Ah ouais, ok,
Ouais,
autant pour moi.
mais même les 15
J'ai
premières
dû
minutes. Enfin, même
m'endormir.
Murillo, tu vois, au global, je l'ai trouvé pas mal.
Non,
Mais
bo
tu
bonne
vois,
entrée, ouais.
mais même Kolos, tu vois, quand tu pointes son mauvais match et il sort à la mi-temps, c'est pas pour rien, tu vois. C'est pas peut-être la première fois qu'il sort en cours de match, donc ça montre.
Ah,
Non,
tu penses
contre
que
Nice
c'est au
aussi, je
niveau de la
crois.
per c'est en rapport avec la performance?
Non, mais ils l'ont
Oh.
dit, il était
Ah,
fatigué,
ok.
genre.
Oui,
Ouais,
ça joue
un
sur la
vrai
perf,
problème
par contre,
physique.
ça. Oui, c'est vrai que
C'est physique et ça
on
joue sur
oublie
la
que les
perf.
joueurs sont pas des robots, des fois.
Mais tu sais, même sa mauvaise perf, enfin.
Ouais, je le vois tous les jours sur le terrain aussi, je suis d'accord, monsieur.
Non,
Ouais.
c'est même pas ça. C'est que même dans une mi-temps où il est pas bon par rapport à ce qu'il fait d'habitude, t'as l'ouverture sur Aubame,
Qui est
où
incroyable.
il contrôle et qui s'excentre un peu, qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont cette qualité dans l'effectif. T'as la combinaison sur le côté avec Sarr où il retrouve Ounahi lancé et qu'Ounahi va jusqu'à la surface et rate son centre. C'est-à-dire que même dans un mauvais match, Klose t'apporte deux grosses situations là où. Enfin, tu vois, même un mauvais match
Là où le
de...
dépositaire du jeu n'en a créé aucune, c'est ça que tu veux dire?
Il emmène le penalty quand même.
Ah,
On en parlera après, mais il en a créé quand même
une,
plus
ouais.
que.
Ouais.
Mais je trouve justement au petit point, c'est pas pour taper sur Klose, hein, pas du tout. Même c'est justement c'est pour ça que j'ai dit Unai aussi. C'est que je trouve que quand t'es dans une équipe déjà qui met trois plombes à sortir les ballons quand elle balance pas sur Aubameyang, et que déjà Rennes, j'ai trouvé qu'ils ont quand même pressé pas mal haut, qu'ils nous ont pas mal gênés parce que des mecs qui sont souvent à l'aise sous pression comme Unai et Kondogbia ont perdu quelques ballons sur du pressing au Rennais. Quand tu as du mal à ressortir le ballon et qu'en plus tes joueurs qui techniquement habituellement sont bons te trouvent des passes, tu te demandes comment ils font, bah rate leur passe. J'ai trouvé que c'était encore plus compliqué. Et de là, bah, c'est le choix de Gattuso de sortir Klose à la mi-temps, il est logique.
Ouais, mais franchement, je trouve même pas que c'est le match où il y a le plus. Genre, autant il y avait des matchs où. Vas-y, tout le monde était.
Il y avait pire dans, déchets, dans
où,
des
où,
matchs.
Tu vois, il y avait. Tu sais, quand Strasbourg, c'est cataclysmique de tous les acteurs, tu vois. Mais par exemple, tu sais, ce soir, je trouve. Enfin, ce soir. Hier soir, je trouve Aubame intéressant dans les courses et il a quelques pertes de balles, peut-être quelques bêtises, tu vois. Mais on sait très bien qu'il va pas bonifier tous les ballons. Mais il y a Harit qui gère très mal des coups. Mais c'est pas non plus le match où il a le plus de déchets. Et c'est pas non plus. Enfin, il y a des situations qui gâchent, mais que c'est lui-même qui l'a créé. Par exemple, j'ai celle où il efface Wu et Théâtre et qui jette le ballon un peu trop vite sur Ndiaye. Mais j'ai trouvé l'axe central plutôt bon défensivement. Kondogbia, j'ai trouvé moins bon contre l'Ajax. Mais quand même, il est dominateur. Et enfin, il y a des individualités qui sont au niveau. Et tu as vraiment l'impression que ce qui est pas au niveau, c'est l'animation et la cohérence collectivement. Tu vois bien que y a pas de continuité, les joueurs, ça t'as l'impression qu'ils sont un peu perdus, tu vois. Juste finis un truc et après je t'écoute. Un truc qui me fait tiquer sur le match, mais vraiment, et ça te fait tiquer dès les 10 premières minutes, c'est tu vois bien qu'à un moment, tu as un petit Lodi qui décroche, qui se met à la relance avec Gigot et Mbemba. Bon, déjà là, tu peux te questionner sur le fait d'avoir Gigot à droite et Mbemba axial. Quand tu te rappelles la saison dernière, tu peux déjà mettre en question ce positionnement de ta charnière. Après ça, et ça c'est le plus grave, plus haut tu as Kondogbia ou Naï à la même hauteur que pour aider à la relance. Ça, tu vois, ça reste cohérent. Et après, tu as ta ligne de 5 devant, tu as Klose à droite. Et c'est là où je vais arriver au point qui fait hurler. C'est tu as Sarr à l'intérieur à côté de lui, où des fois ça permute, c'est Sarr largeur, Klose intérieur, tu vois. Mais tu as Sarr, très souvent, tu as Sarr à l'intérieur. Est un Illiman à l'opposé du jeu qui mange la ligne, tu te dis, t'as pas besoin d'avoir l'UFA pour comprendre que quitte à faire manger la ligne à un mec, tu vas la faire manger à Sarr et tu vas essayer de trouver Ndiaye dans ces zones-là, qui sont des zones où il a évolué avec Marcelino et où il avait des niveaux de performance bien au-dessus, tu vois, parce que autant en début de saison, ça tombait sur Ndiaye pour son manque de stats, il marquait pas de but. Mais on se souvient des matchs face au Pana, par exemple au Vélodrome. Tout le monde se disait, je crois qu'on a. C'est quand même un bon petit joueur, tu vois. Il va pas. La legacy de Payet, ça va être compliqué parce qu'on n'aura pas un des meilleurs joueurs du monde dans les prochaines années. Il faut faire le deuil. Mais tu disais, le mec est quand même pétri de qualité. Et depuis qu'il y a Marseille, depuis que Gattuso est à l'OM, où il est passé ce joueur et t'as quand même. Souvent vite de pointer Gattuso sur la responsabilité de la baisse de performance de Illiman.
Tu trouves qu'il était vraiment bon au début de saison, Neyman?
Ouais.
Ou...
Bah, il était prometteur.
Pas très bon, mais ouais, il montrait des choses
qui étaient
quand
même. Il montrait plus
ah,
que
oui,
maintenant. Ouais.
Oui, bah après, ouais. je pense qu'au petit, il est cantonné un rôle extrêmement limité, quoi. Je sais pas comment Gattuso le voit et ce qu'il a vu de lui durant les matchs sur Marseille.
Il est bien entouré, il y a Harit à côté, le meilleur joueur du monde, il devrait être meilleur.
Ah, il est pas à côté.
Mais je comprends pas.
Je voulais juste piquer au petit.
Mais ça fait trois fois, mais je vais pas répondre. Je vais pas te répondre sur le meilleur joueur du match. C'est pas possible. C'est genre,
Eh ben.
On dirait
le
notre
match en
ami
question.
Arines sur Klose il y a 2 mois,
Ah
frère.
non,
Arrête,
alors
frère.
là, ne compare pas ça, s'il te plaît.
Mais c'est pareil, frère.
Ok. Non, bah, tout va bien alors.
Vous avez coupé Alba, les gars.
Désolé.
Non, mais non, moi je disais.
C'est
bon,
ma
après,
faute.
C'est pas forcément très intéressant. Non, je rigole. Mais. mais c'est vrai que, franchement, bon, après, quand t'es dans la situation de Gattuso, t'es en droit de dire vas-y. il montre pas beaucoup de choses depuis que je suis là, ok, mais il est cantonné quand même à un rôle plutôt ingrat. Après, je pense que c'est un joueur qui peut s'adapter à plusieurs registres, mais franchement, par rapport à ce qu'il a montré sur Marcelino, ou comme voilà, il ça manquait de stats, mais les performances, elles étaient là. C'est un peu le même parallèle qu'avec Aubameyang au final sur le début de saison. C'est que il n'y avait pas les stats, mais la production, elle était bonne. Pour des joueurs qui viennent d'arriver dans des contextes un peu particuliers, la production, elle était bonne. Là, Aubameyang, il a la chance de voir les stats. Bah, les productions, c'est beaucoup plus irrégulier, on va dire. Il a les stats, mais Hildmann, il est passé de rien à rien, en fait. Il n'y a plus rien. On l'a envoyé à droite, ok, c'est un joueur plutôt intelligent, donc tu peux l'envoyer à droite, il est capable de faire des choses, parce que ça reste un joueur quand même de qualité, mais même quand il rebascule à gauche comme hier, t'as peut-être une action, c'est l'action où il prend, bon, il y a l'action du penalty, mais l'action avant qu'il prenne le carton rouge, elle est intéressante, parce que sa prise d'initiative, elle est bonne. Après, malheureusement, ouais, ça aboutit sur une semelle. Mais, ouais.
Mais c'est révélateur. Hein.
Ouais, c'est révélateur de ce qu'il fait sur depuis quelques semaines. C'est que techniquement, tu vois que...
Sur cette action-là, le double contact...
C'est une lumière dans tout le match. C'est une lumière. C'est waouh.
Mais c'est après, important voilà, de la confiance aussi, je pense. Hein, exactement. T'as raison. T'as raison, Alba, sur le. Je pense que le rôle à laquelle, auquel on l'attribue, il est pour beaucoup dans ses performances. Et au-delà de comment Marcelino l'utilisait, ce qu'on pouvait déjà entrevoir, qui était plutôt positif à l'époque, il a surtout été très bon à Sheffield dans l'axe, concrètement. Il joue couloir côté en sélection avec le Sénégal. Et en vrai, les performances sont tout aussi mitigées, si j'en crois nos amis sénégalais. Donc je pense qu'il y a clairement un intérêt à le faire jouer dans l'axe, quitte à le faire jouer à droite, puisque à droite, il y a la possibilité du coup d'être plus intérieur pour laisser le couloir à Klos, en sachant que Lodi quand même prend très peu le couloir, comme on l'a déjà dit.
Ouais, mais d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez en tête, moi je l'ai oublié, c'est la compo de Brighton et du... Parce que... Non, c'est pas Brighton, je crois que c'est le Havre que j'ai en tête. La compo du Havre, c'est quoi? Enfin, c'est qui à gauche? Parce que il y a la balle... Le premier but, Hildmann, il est à droite, il provoque et il fait un centre qui finit en
contre. Mais...
C'est Sarr à gauche.
Sarr à gauche et Hildmann à droite.
Et c'est la seule fois où on l'a vu et on ne peut plus le voir en fait. Ça. C'est, on ne peut plus.
Non. Mais pourquoi non. Pourquoi
le, faire la tige. Ouais, genre, parce que quitte à faire perdre des ballons à Sarr, enfin.
Je sais pas. Il faut que ça soit à gauche quand on n'y est jamais. Mais. Enfin, je sais pas si vous avez encore d'autres choses à dire sur
Eleman
Ndiaye. J'allais juste reprendre un peu de hauteur sur le match, parce que hier je me faisais la réflexion et j'ai trouvé beaucoup de similitudes entre le match d'hier et le Nice-OM deux semaines après l'arrivée de Gattuso. Sauf qu'hier, j'ai trouvé qu'on était dans la peau des Niçois. J'ai trouvé que Rennes a certes perdu, mais ils ont l'air d'être sur un chemin qui est intéressant et je suis curieux de voir combien de temps... Stéphane va poursuivre, parce que malheureusement, nous, Gattuso, il a vite rebroussé le chemin. Il a changé de plan à plusieurs reprises depuis. Rennes était meilleur dans le jeu au global, hein, je suis d'accord avec vous, Ariès le soulignait à juste titre. Mais dans la création offensive, dans les 30 derniers mètres, franchement, c'était indigne d'une équipe qui prétend une place européenne en fin de saison. Donc, pour moi, c'est exactement le constat qu'on avait eu contre Nice pour l'OM, où on avait eu des bonnes intentions dans le jeu, on avait globalement eu le ballon. Mais dans les 30 derniers mètres, on avait souligné le manque de création offensive. Ah, et d'ailleurs, si on poursuit l'analogie sur ce match-là, ça aide à relativiser un peu le rouge de Ballardi, parce que là, on a Christopher Roux qui l'a surpassé. Il a vendu le match à des moments hyper cruciaux.
Merci à lui.
À la 8e, à la 8e déjà, pour bien plomber le début de match de son équipe. Et on a vu que ça a agacé particulièrement Bourigeau qui l'a dit au micro de Prime en disant qu'il s'était donné comme mission de faire un très bon début de match et que ça va être capital. Donc bah, merci pour le penalty. Et surtout le rouge qu'il prend à la 60e. Donc en vrai, c'est à l'amorce de la dernière demi-heure, au moment où, en toute logique, Rennes allait jeter un peu toutes ses forces dans la bataille pour chercher l'égalisation.
Ah, le changement de Calimundo, il était terrifiant.
Bah, la frappe qu'il met, ouais.
La frappe qu'il fait, elle est...
froide.
Ah, tu peux difficilement mieux la taper. Hein.
Et au final, il la prend un peu trop externe.
C'est pour ouais. Mais quand tu la vois partir, tu te dis que tu vois, ouais. La trajectoire, elle est.
Et je pense pas que
au dernier moment, quoi.
soit dessus en plus.
Non. Mais juste par rapport à ce que tu dis, Younes, c'est intéressant parce que le sujet, c'est est-ce qu'on le plus important, c'est les trois points. Si on se cantonne à cette lecture-là, sur ce match-là, où on se dit que en fait, c'est la bonne lecture de ce match, c'est se dire que Christopher Wu, il vend le match pour Rennes, que mercredi contre l'Ajax, ça joue aussi à des détails parce que si leur gardien ne fait pas une erreur à la dernière seconde, qui est quand même pour moi une grosse erreur, tu gagnes pas. Que ta dernière victoire avant ça, c'est, je ne sais plus si on avait fait extérieur puis après domicile contre l'AEK, mais contre l'AEK, tu gagnes aussi malgré un visage un tout petit peu intéressant en première période grâce à une erreur de leur gardien. Tu te retrouves rapidement dans une lecture où si tu dis le plus important c'est les trois points, tu occultes totalement le fait que même tes victoires, elles ne sont pas totalement méritées. Elles sont même pas méritées en vrai, si on regarde les derniers matchs. À part peut-être l'Ajax où, par rapport aux autres matchs, tu as quand même été dominant sur certaines périodes. Mais je trouve que quand même, et même le déplacement à Athènes, le déplacement à Athènes, je me rappelle qu'il y a des séquences où on est aussi très très proche de rompre et où l'AEK nous met un bouillon pendant des séquences de 5-10 minutes de jeu. Je sais pas, moi je peux. Pour répondre au sujet, je ne peux pas rester sur les trois points, même si c'était clairement vital en Europa comme en Ligue 1.
Non, mais pour le coup, il n'y a pas beaucoup de choses à ressortir du match d'hier et qui sont à mettre au crédit de Gattuso, mais je trouve que l'assise défensive qu'il a mis en place, elle est quand même intéressante parce que je me faisais aussi la réflexion, mais depuis Lille, on concède quasiment plus rien en termes d'occasion sur les matchs de Ligue 1 qu'on a fait, hein, que ce soit contre Lens, contre Strasbourg ou même si tu es... parfois à la peine, même très souvent à la peine en transition, mais paradoxalement, tu ne concèdes pas beaucoup d'occasions franches. Tu vois, tu n'es pas sauvé par Lopez. Il n'y a que contre Ajax, hein, je l'ai mis entre parenthèses, mais en championnat, je trouve que le roseau plie, mais ne rompt pas. Et par exemple,
Strasbourg, quand même. Hein.
C'est simple, on parle beaucoup.
Au début de match, ouais, mais il n'y a pas tant de frappe que ça. Hein,
Et contre Lille. Qui est 15e de Ligue 1, tu vois, mais.
Non, bien sûr, mais contre Lille, contre Lens et contre Rennes, le constat, il est le même. C'est-à-dire qu'au final, tu n'as pas le ballon, tu as le sentiment d'être baladé pendant tout le match, mais en termes d'occasion franche, concrètement, tu ne concèdes rien.
Pour aller dans ton sens,
mais ça, c'est Gattuso ou c'est Marcelino?
Non. Ok.
Non, mais je suis d'accord avec toi, je ne revendique pas cette philosophie-là, mais c'est quand même à mettre à son crédit pour le coup. Et après, je me dis aussi qu'on ne va pas avoir la chance de jouer contre une équipe qui a Amine Gouiri en meneur de jeu toutes les semaines, hein, parce que clairement, on a parlé de Christopher Wu, mais on lui doit beaucoup, beaucoup à lui aussi, hein, le nombre d'occasions qu'il a tué dans l'œuf par des mauvais choix ou des imprécisions techniques, c'était aberrant. Et franchement, je préfère notre Amine.
C'est peut-être ça qui l'a confondu.
Je crois qu'on avait le bon Amine. Ouais, c'est peut-être ça.
Bref, c'est un coup bas, je ne répondrai pas là-dessus, Younes. Mais je vois que tu as choisi ton camp. Mais non, juste avant de te donner la parole, Alba, pour rebondir sur ce que disait Younes par rapport à la solidité défensive, depuis l'arrivée de Gattuso, on parle beaucoup de la solidité défensive de Nice, hein, voilà, c'est la meilleure défense de Ligue 1, etc. etc. Et ben, depuis l'arrivée de Gattuso, l'OM est l'équipe qui concède le moins d'expected goals à son adversaire, juste derrière Nice. Voilà. Enfin, c'est pour apporter un peu de stats à cette impression.
Mais est-ce que c'était pas le cas avant, en fait, déjà aussi?
C'est ça.
Mais depuis le début de la saison l'OM est l'équipe qui concède le moins après Nice.
Voilà.
Mais
parce que quand j'ai dit à Younes, parce que quand j'ai dit à Younes, ça c'est Marcelino ou Gattuso, je parlais pas de par rapport aux prétentions de Gattuso. Je parlais, est-ce que c'est son travail ou est-ce que c'est ce qui reste de notre ami mangeur de quinoa?
Nous y sommes parce que moi je. S'il y a un point que je trouvais à Marcelino qui était bien, on avait une faculté à défendre la surface qui était globalement très bonne. Je m'explique sur tout ce qui est centre. Il y avait un problème, c'était au niveau axial. D'ailleurs, on n'a toujours pas vraiment réglé hein, les combinaisons dans l'axe, dans les 20, 15. T'approches de la surface, tu veux battre l'OM, t'attaques l'axe. Dès que tu arrives à mettre ton plan en place et que t'attaques l'axe, c'est mort. On l'a vu contre l'Ajax, on l'a vu contre Strasbourg en vrai. On l'a vu, c'était quel match? Brighton, il y a le fameux ballon qui arrive en retrait qui n'a jamais été vraiment réglé. Bon, ça, c'est un détail. Mais là, l'axe, c'est un problème. Par contre, sur tout ce qui est centre et défense de surface, je trouve qu'on est vraiment bon. D'ailleurs, encore hier, contre Rennes, Gisayous, je crois, Rennes, il centre 16 fois à la mi-temps.
Ouais.
Il n'y a rien, ils font rien, il n'y a rien, ils centrent pour rien. En gros, et on l'a vu contre Lens, où il y a une excellente défense de surface avec deux, trois interventions salvatrices en fin de match de Valerdia avant le but de Grady. À Nice, c'est pareil. Mais ça, est-ce qu'au final, ce n'est pas le reste de Marcelino? Parce que c'était déjà en fait, le cas avant.
En fait, c'est déjà le cas avant. Le problème, c'est que l'échantillon de match de Marcelino, c'est Reims, Nantes, Metz, oui. Toulouse. Donc concrètement, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de mettre en avant sur ces matchs-là. Alors que pour
Gattuso,
en l'occurrence, les matchs dont je parle, c'est Lille, Lens et Rennes, pour le coup, qui sont censés être des locomotives de notre Ligue 1 et qui ne le sont pas. Donc c'est, en vrai, je ne contredis pas votre point. Hein. C'est sans doute les fruits du travail de Marcelino. Mais malheureusement, ce n'est pas du
après,
tout
ce que j'ai envie de mettre en avant sur ces matchs-là. Moi, quand même, je veux nuancer ce propos parce que bon, il faut bien trouver une éclaircie quelque part. Ça en est une, parce que ce soit Balerdi, Jigo, Mbemba. Sur ce point-là, ils sont très bien. Après, l'animation défensive globale, bien que les stats disent qu'on concède très peu, quand tu regardes sur le terrain, c'est quand même dur parce que tu arrives, l'adversaire, c'est le cas plus ou moins depuis le début de saison, à quelques exceptions prêtes, on va dire. Mais c'est assez facile de bouger l'équipe. Tu n'as pas cette notion de collectif, tu n'as pas cette notion de résistance du fait que, vas-y, on va faire le dos rond. C'est notre jeu, on va subir, c'est pas grave, on va s'en sortir. Parce que ça peut être une idée de jeu, comme on a dit depuis le début, il faut faire le deuil de la saison dernière, ça sera jamais comme la saison dernière. Si on veut
partir sur... Ah oui, non, mais le référentiel, c'est même pas ça, tu vois, c'est
voilà,
juste si c'est on une veut... équipe, genre,
voilà, une équipe si on et un veut, collectif. Voilà, une équipe, peut-être que ça va pas me parler footballistiquement parlant, mais peut-être que je vais voir autre chose dans l'aspect défensif d'une équipe un peu plus compacte, qui va moins concéder, et qui, bien qu'elle décide de laisser le ballon, bien ça me fait chier. Mais tu te dis, bon, l'agressivité, le bloc et tout, il est dur à
manœuvrer.
Voilà, c'est dur de jouer contre l'OM. Mais là, actuellement, c'est pas dur de jouer contre l'OM.
Mais c'est ça le paradoxe, en fait. C'est que c'est hyper simple pour nos adversaires, et là, pour le coup, tel qu'il soit, d'arriver dans notre train de dernier mètre. Parce que concrètement, le contre-pressing n'est pas bon. Au milieu de terrain, on a souvent beaucoup d'espace. Et en vrai, je voulais revenir sur ce point aussi plus tard, sur les espaces qu'on a au milieu de terrain, que ce soit Veretout ou Naïs, ça n'a absolument rien changé. Et je pense que la clé, c'est un peu contre Dogbia sur ce point-là. Mais en soi, en termes d'occasion franche, encore une fois, on concède quasiment plus rien. Donc c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on est très mauvais défensivement dans les 70 premiers mètres du terrain, et on est plutôt bon dans la défense devant notre surface.
Bon, au final, c'est difficilement explicable. Moi, je pense que c'est surtout dû au niveau global de la Ligue 1 qui est plutôt bof pour le moment.
D'accord avec toi, Alba.
Et qu'au final, toutes les équipes, elles se courent après les unes après les autres. Elles ont toutes plus ou moins le même niveau. Moi, je suis désolé. Ma référence, ça reste Nice, qui reste une équipe. Ben, voilà. Si l'OM a vocation à devenir une équipe solide, ben, qu'elle regarde les matchs de Nice. Qu'on ne sait pas beaucoup, mais qui, dans le jeu, ben, moi, je trouve quand même, ça reste... Globalement, ça reste poussif. Après, tu as une solidité et tu prends des points. Hein. C'est très bien. Mais je n'ai pas là, à l'heure qu'il est, à part peut-être les matchs de Lille, que quand même, ils soient intéressants. Et encore, voilà, ça reste quand même intéressant. Le reste, moi, j'ai du mal à voir une équipe qui, tu te dis, purée, ils ont une force offensive. À domicile, c'est dur. Par exemple, il y avait Strasbourg les années d'avant. Tu vas jouer à la Meno, ben vas-y, compliqué. Et t'avais Nantes pareil, mais là, cette année, même ça, t'avais Lens à domicile. Ben là, tu l'as pris.
Ça fait sens ce que tu dis, Alba, parce que clairement, on a vu qu'à l'échelle européenne, concrètement, on a pris beaucoup de buts. Je viens de regarder là, c'est 9 buts sur 5 matchs.
Ouais.
Alors qu'en Ligue 1, au total, on a pris 14.
Après, t'en prends 6.
En 13 matchs.
T'en prends aussi 6 sur la double confrontation contre l'Ajax, mais par rapport
à ce que tu as dit... 2 contre Brighton aussi.
Oui, aussi 2 contre Brighton, mais par rapport à ce qu'a dit Alba sur le fait que c'est aussi la Ligue 1, quand on regarde jeudi dernier, quand tu joues l'Ajax, il y a une différence quand c'est Brobé qui rentre dans ta surface et quand c'est... malheureusement, même si je l'aime bien, et qu'il aurait totalement sa place à l'Olympique de Marseille, Amin Gouiri...
jamais de la vie.
c'est très différent. Parce que Brobé, contre nous, il profite de deux erreurs de Gigo, si je ne dis pas de bêtises, et il rentre dans la surface, il marche. Gigot contre Rennes, je ne sais pas si je me rappelle plus, même si c'était hier, s'il a fait un bon match. Mais même les quelques erreurs qu'a pu faire la défense centrale, Rennes, ils n'en ont pas profité. Et quand ils se retrouvaient même des fois en situation de supériorité numérique, ils faisaient les mauvais choix. Donc, il y a aussi cette différence-là, je pense, par rapport au fait que tu n'encaisses pas en Ligue 1. Mais je pense que le problème est quand même là. Moi personnellement, je ne vois pas forcément de solidité défensive avec l'arrière-garde en Ligue 1. Pour moi, tu subis autant, c'est juste que les équipes en face, elles ne sont pas efficaces.
Ok.
Mais c'est en général, surtout en Ligue 1, enfin, le contraste Ligue 1 Europe, c'est que, par exemple, des équipes qui ont des effectifs plus qualitatifs que l'AEK en Ligue 1, il y en a, mais elles ne vont jamais jouer comme l'AEK joue dans un mini-championnat de 6 journées, tu vois. Et c'est pour ça que tu marques beaucoup plus de buts et que tu en prends beaucoup plus. C'est que c'est des matchs, c'est pas des matchs à élimination directe, mais c'est des matchs qui ont beaucoup plus d'enjeux que des matchs de championnat. Et c'est surtout, enfin, un championnat, t'es l'Olympique de Marseille, t'es attendu. Que ça soit l'Ajax, enfin l'Ajax, ils te regardent pas de haut quand tu joues contre eux, tu vois, que ça soit chez eux ou chez toi, ils sont venus pour te tabasser. Et l'Ajax, ils le font, tu vois. Genre le match qu'on a subi contre l'Ajax, même les grosses écuries de Ligue 1, elles préfèrent faire nul. Bon, là, l'Ajax avait une obligation de résultat, mais Lille qui vient au Vélodrome, dans leur calendrier, s'ils récupèrent un point, avant la saison, peut-être pas avec le visage qu'on a là, tu vois, mais même avec le visage qu'on a là, ils viennent, ils disent que s'ils prennent un point, c'est pas un mauvais résultat. L'Ajax, ils sont venus pour gagner, ils n'avaient pas trop de choix, et ils ont mis... Honnêtement, ils ont mis les ingrédients pour le faire et ça aurait pas été scandaleux de perdre ce match. Même à 10 contre 11, on passe pas loin de la correctionnelle. Hein. Il y a le centre qui fuit devant le but. C'est des matchs particuliers. C'est pour ça que tu marques plus de buts.
T'as moins de calcul dans ce match-là.
Ouais.
Surtout quand face à des équipes comme ça qui sont l'Ajax, hein, qui était malade comme l'OM et qui avait besoin de cette compétition européenne pour souffler un peu, et là, puis jeudi dernier, où ils avaient l'obligation de gagner. Vas-y, Younes.
Non, j'allais faire une transition sur la partie offensive, pour le coup. Ouais. Là, en vrai, je sais pas si tu vas dire quelque chose à ce propos, Yus.
Non, j'ai pas grand-chose à dire sur la partie offensive, tout va bien, on a les meilleurs joueurs du monde, donc...
voilà. Non, mais pour le coup, depuis le match à Strasbourg, donc si on fait la rétrospective Strasbourg-Ajax-Rennes, je trouve qu'on a vu beaucoup plus d'attaques en nombre que sur les deux matchs précédents dont on se plaignait, à savoir Lille et Lens. Et même, enfin, que ce soit Klos, qui ne fait pas un très très bon match hier, mais qui est comme optimisé à l'origine de deux belles situations, ou Mourinho quand il est rentré, on a retrouvé des situations encore une fois dans ce match-là où on attaque avec 5 ou 6 joueurs de l'OM dans les 30 derniers mètres. Et c'est encore trop peu en termes de volume, mais c'est encourageant de voir que Gattuso visiblement a compris ça, j'espère en tout cas. Parce que comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est la clé de notre réussite offensive cette saison. Donc c'est un des points positifs aussi auxquels j'ai envie de me raccrocher en me disant que il a peut-être compris ça et on se tapera plus de purge offensive comme on a pu le voir contre Nice, contre Lens et contre Lille.
C'est vrai que sur ces dernières semaines, ces dernières sorties, au-delà de la qualité aléatoire des contenus des matchs, tu as quand même des matchs, en tout cas une première mi-temps à Strasbourg et un match contre l'Ajax où tu fais le choix de mettre du nombre devant et concrètement, ça t'a été récompensé dans les buts, en tout cas dans les occasions que tu t'es créé, les opportunités que tu t'es créé et les buts que tu as marqués. Donc il y a tu sais que c'est une cartouche qu'il a dans sa poche. Après, la question, c'est quand on voit des matchs comme hier où tu vois qu'il a été dans le calcul à l'OGC Nice et quand on sait ce que fait le succès de Nice cette saison en Ligue 1, est-ce que c'est pas encore plus tentant pour lui de se dire elle est bien belle la cartouche que j'utilise pour mettre 10 buts en deux matchs. Enfin, j'exagère, mais c'est bien aussi quand tu gagnes 2-0 et que tu concèdes peu. Est-ce que t'as pas peur de ça, toi, Younes?
Pour moi, justement, c'est tout le travail qui va devoir...
Parce qu'on en parlait, les dernières émissions où je te disais, j'ai encore espoir, moi, qui l'aille dans des situations sur les situations de match face à des adversaires plus faibles, ou des matchs normalement plus abordables, ils soient dans moins dans le calcul.
Qu'ils soient plus ambitieux. Mais en fait, je pense que c'est justement l'équilibre à trouver quand on prend justement ces matchs-là, pas les matchs en fin de saison, parce que là, très honnêtement, à part allez, on va dire Lyon, et encore même Lyon, il va falloir attaquer beaucoup en nombre, parce que ça va être dominant. À part le déplacement à Brighton, concrètement, tu joues Montpellier, Lorient et Clermont, c'est des matchs où tu dois retrouver la même configuration que ce qu'on a eu contre Le Havre, qui nous avait enchanté, c'est-à-dire que tu dois avoir beaucoup de joueurs offensifs sur le terrain, et tu dois avoir beaucoup d'attaques en nombre, essayer de défendre beaucoup plus haut, et pas justement essayer de verrouiller et d'être bon dans tes 30 derniers mètres défensivement. Donc ça sera un bon élément de réponse de regarder comment l'OM se comporte offensivement sur ces matchs-là. Mais en tout cas, il a quand même, je pense, compris que les buts de l'OM ne viendront que sur des attaques en nombre.
Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, mais vu que tu parlais du secteur offensif, Opti, je vais te lancer là-dessus. Toi, concrètement, par rapport à hier soir, ce match de l'OM et ce match des individualités offensives, t'en es satisfait ? Concrètement, notamment du numéro 10
En fait, non, je peux pas être
numéro 11, hein, du coup.
Oui, oui, parce que c'est dans le jeu qu'il est numéro. Enfin, bref.
Il joue pas 10, mais
c'est ouais, il joue quoi? Il joue 6.
Il joue relayeur. Mais
okay. D'accord.
Ben
ouais. Non, bah ok.
Mais de toute façon, dans tous
du
les
coup,
cas,
on peut parler de son apport défensif, du coup, ou non?
Ben, pour le coup, c'est peut-être le match où il a gratté le plus de second ballon, je trouve, où il s'est le plus impliqué. Non, bah ça va.
Mais... C'est bien l'exigence avec certains joueurs. Vas-y, excuse-moi, continue.
Mais c'est pas question d'exigence, c'est que je trouve son match plein de déchets. Quand on l'a évoqué hier, quand on regardait, je t'ai pointé les situations.
Ouais, mais tu ressors que le positif, comme s'il y avait eu que ça, alors que le match, il est...
Mais je t'ai dit, il y a plein de déchets. L'action où il est face Wu et qu'après, il est face Théâtre. Ce qu'il fait derrière, c'est pas bon. Mais déjà, c'est le seul qui est utilisé dans un registre un peu pertinent pour lui. Après, il y a ce qui l'entoure qui fait que... Et ses défauts à lui qui font qu'il n'atteindra jamais la perfection. Mais au moins, je préfère lui où il est utilisé que Ndiaye qui mange la ligne à gauche. Et Sarr... qui s'empale pendant 90 minutes sur Théâtre ou je sais plus qui, et qui fait le bourrin dans l'axe, tu vois. Enfin, quitte à faire le... On connaît le profil de ça, on connaît ses lacunes. Ouais. Moi, là, tout à l'heure, quand on parlait du Havre, j'avais oublié que c'était Sarr à gauche. Et je me dis que c'est peut-être l'un des éléments de réponse du fait que tu avais une bonne production offensive, au-delà de des cadeaux que te fait le Havre et du rouge que tu provoques. Je pense que à date, avec l'effectif qu'il a, tant qu'il ne mettra pas Sarr d'un côté et Clauss de l'autre, l'animation offensive sera jamais, elle aura jamais une cohérence, une super cohérence. Après, est-ce que les autres individualités ont un plafond de verre? Ouais, Aubame n'est pas un 9. Aubame n'est pas un 9 autosuffisant comme il y en a d'autres en Ligue 1. Harit n'allie pas toutes les qualités du monde et fait pas tout le temps les bons choix. Mais ça empêche que même sur un match comme hier, même sur un match comme hier où tu peux trouver tous les mauvais choix du monde, tout le manque de justesse du monde. Enfin, le but, il vient d'une 2 bien négociée.
Il vient d'un pénalty marqué par le numéro 9 que tu viens de critiquer avant aussi. Parce que je sais pas, c'est lui qui a mis le pied et qui a mis le but dans le filet. Le ballon dans le filet. Parce qu'on pourrait croire que c'est Harit qui a mis le but avec ce que tu dis.
Du coup, Milik, il a fait un bon passage.
Non, mais c'est pas ça la question. C'est que tu dis le but vient de lui, mais il vient aussi d'Iliman, qu'on a bien critiqué.
Ouais.
Pourquoi n'accorder le crédit de ce but qu'à Harit, en fait? Ça, je comprends pas. Alors qu'il a ni provoqué le pénalty directement, ni mis le pénalty directement.
Il est impliqué dans le process, tu vois. Mais moi, quand je critique.
Ouais, bah, ouais.
Après, Iliman, il a pas d'autres faits d'armes dans le match, tu vois. Genre, les deux
faits d'armes. Je trouve qu'Harit en a pas non plus, en fait. C'est ça le truc. C'est que vraiment, le match d'Harit, je le trouve mauvais. Vraiment mauvais. Après, on peut me dire que les autres n'ont pas été meilleurs. Moi, je dis pas qu'il y a d'autres offensives qui ont été meilleures. Mais clairement, En fait, la production offensive de ce match hier, elle a été tellement catastrophique. Vouloir se raccrocher à ça en disant, ouais, Harit, il a permis une occasion par sa passe en profondeur à Eleman, je trouve que
Et
je trouve que
surtout,
c'est beaucoup, c'est trop exigeant.
Surtout que tu as une situation juste après le but. D'ailleurs, je pense que c'est la seule situation de l'OM en première période avec celle du but, où tu as, je sais pas si vous vous rappelez, Harit et Ndiaye et Aubameyang qui se retrouvent en 3 contre 2 ou en 3 contre 3, et Harit qui préfère faire un dribble. Après, je ne me rappelle plus si c'était dans le sens du jeu de faire
S'il
le
te plaît,
dribble ou
c'est un
pas.
dribble.
Ouais,
Ouais,
bon, en
une
fait.
feinte de corps
Une
arrêtée, il
fin
la
de.
donne à Unai au lieu de servir les mains.
Oui, voilà. En fait, tout ce que j'aime pas d'Harit sur les phases de transition et où je trouve qu'il doit vraiment, vraiment gagner en efficacité.
Non,
Et par rapport.
on parlait pas de la même, mon avis, parce que c'est pas, enfin, l'action dont tu parles, c'est pas une phase de, enfin, c'est pas une phase de transition. Genre, je
Moi,
pense pas que tu parlais de la même action.
c'est une vraie contre-attaque où, au final, il fait l'ouverture sur Ndiaye, mais c'est trop tard et t'as le défenseur Rennais qui revient. Mais
On parle de pas
sur
la
le.
même, on
Ah,
parle
je suis
pas de la
d'accord
même.
avec toi.
Ouais, on
News,
parlait pas de la
ok,
même de l'ouverture de
news.
l'action.
Ok.
Mais cette action-là, Reel, c'est un gros défaut d'Harry, tu vois, il doit
Ah
mille fois
oui.
mieux la négocier, il doit
Mais c'est
continuer
pour
à.
ça qu'au petit, moi, je veux la mettre en lien avec l'action du penalty. Je trouve que aussi sur le penalty, ta transition, elle est réussie parce que Ndiaye, je ne sais pas comment l'expliquer, il montre l'action à Harit. Il lui montre que là, je me mets dos au but, je te refais la passe, par contre, tu me la remets en profondeur. Et
Ouais,
c'est là
mais
où je pense que
il y a un
Ndiaye.
préalable à la remise d'Harit. Il y a le déplacement. Enfin, Anja, il porte un peu le ballon. L'intervalle, elle est maigre. Harit, il va se placer dans le bon intervalle. Il reçoit la passe. Il se permet de la remettre en une. C'est pas. Anja, il fait le bon déplacement et il fixe bien et il arrive à trouver la passe pour Harit et Harit le remet bien. Mais ça se résume pas. Genre, moi, je résume pas l'action d'Harit. Je dis qu'elle est bien jouée et même dans l'absolu. Enfin, si vous ne faites pas la faute, il n'y a pas but, tu vois. Je dis pas que quand je dis qu'Harit qui se fait gagner le match, il est impliqué sur un truc qui se fait gagner le match. Et pour moi, tu peux. Enfin, Aubameyang, il marque le penalty, mais si un penalty c'est valorisé à 0,8 XG, c'est pas pour rien, tu vois. C'est que
Oh, il y en a qui
c'est
arrivent
pas.
à en rater des pénaux.
Mais sur l'action, je trouve
Ouais,
que
mais
NJ
c'est
est.
plus un défaut de rater un penalty qu'une qualité de les mettre, tu vois. Genre.
Oui, et du coup, c'est juste normal de réussir une passe hein, dans ce cas-là.
Ouais.
Non, j'aimerais juste que le curseur soit le même pour tout le monde, en fait. C'est
Mais si
juste ça.
c'était comme ça, on serait footballeur pro, tu vois ce que je veux dire? Genre, on parlerait de nos matchs et pas des matchs
Mais non,
de
mais
mecs qu'on
je
regarde à la
comprends
télé.
pas. Non, mais en fait, c'est ça vraiment. C'est que là, il y a une ultra exigence pour les autres. Et pour Harit, non, il est bien parce
Ultra
qu'il a
exigence.
réussi une passe. Bah, tu parles d'Aubameyang, tu dis, ah, mais Aubameyang, il a juste mis un penalty.
Mais
Désolé,
Obama, j'ai dit
mais.
là. Non, je parle du but.
Mais
Le
tu
match
dis.
d'Obama, j'ai dit
Non,
il était
mais
bon, frère.
quand tu parles du penalty, tu parles d'expected goals. Tu sous-entends, Aubameyang, on se calme, il a juste mis un penalty qui compte 0,8 expected goals. C'est ça que tu dis quand tu dis ça.
Ben frérot, après si le débat c'est de dire est-ce qu'un penalty c'est le truc le plus facile à mettre dans le football, ouais mais enfin ouais, genre c'est plus
Je
facile.
pense que quand tu es normalement un mec qui est censé être le dépositaire du jeu de ton équipe, désolé, j'insiste de ouf là-dessus, mais réussir une passe en profondeur après un 1-2 bien sollicité, c'est encore plus facile que mettre un penalty, en mon sens. Après, il en fait tellement peu qu'on se satisfait de ça, c'est bien ça le problème. C'est qu'il
Mais.
tente pas, il ralentit, enfin, de toute façon, on en a déjà discuté hein, d'Amine. Hein. Mais clairement, moi j'attends juste, je vais te laisser finir là-dessus et j'ouvrirai une discussion là-dessus et je suis curieux d'avoir ton avis et ceux des autres par rapport à ça. Mais excuse-moi, je t'ai coupé, je te laisse terminer au petit.
Non, mais en fait, je comprends pas parce que tu m'attaques comme si j'ai dit le
Non,
match
non, je t'attaque pas
d'Aubameyang,
toi. Non, je t'attaque pas toi.
mais tu, si
J'arrive.
tu me parles de l'exigence que j'ai envers Amine, mais le match d'Aubameyang, pour le coup, moi, ce match-là, je le trouve pas mauvais d'Aubameyang.
Moi, je le trouve moyen, mais tu vois, pour moi, comme Harit, comme peut-être que les autres sont un peu moins moyens que les deux autres, voilà, si tu veux.
Non,
Mais
moi aussi,
en
je
fait,
trouve que c'est
globalement,
pas
je trouve que
moyen.
c'est moyen, quoi. C'est ça, en fait, c'est que
Mais
j'arrive pas à me
ouais, mais.
dire, ah, dans toute cette amas de merde, bah, Harit, c'est quand même le meilleur, tu vois. J'ai même pas envie de le dire, tu vois, tellement pour moi, y a
Enfin,
pas
si tu...
grand-chose dans sa perf.
Mais je dis pas que c'est un grand match, il a fait des meilleurs matchs. Mais si, enfin, si, par exemple, si tous les offensifs sont au niveau de Sarri hier, tu marques pas de but. Tu vois ce que je veux
Ouais,
dire?
ça je suis d'accord par contre. Oh, non, mais
Genre,
après, on peut aussi
tu sors la
penser.
tête de l'eau parce que tu as un
Mais.
Aubame qui est disponible et qui fait ce qu'il faut, et que
Ouais.
tu as un Harit disponible avec
Mais.
tous les déchets qu'il peut
Ouais, mais
avoir, tu vois?
disponible. En fait, moi, malheureusement, hein, tu vois, par exemple, Aubameyang, ça, c'est quand même des joueurs qui vivent par leurs appels, par leurs déplacements et la
Ouais.
capacité des autres à les servir. Le fait que Harit, sur plein d'actions, il ne tente jamais la passe quand il y a un appel. Et vraiment, il y a trop de trucs dans un match. Et je suis pas fou parce que je vois qu'il y en a plein qui le remarquent aussi. Moi, ça me frappe le nombre de situations qu'on annule juste parce qu'il y a un joueur qui n'ose pas. Et je parle d'Harit, mais Illeman, il est pas mal dans ce genre-là aussi. Tu vois, des fois, tu as des déplacements d'Aubameyang. À un moment, en deuxième mi-temps, tu as un déplacement d'Aubameyang entre le central et le latéral gauche rennais. Le déplacement est juste parfait dans l'intervalle. Harit, il n'ose pas lui mettre.
Pas.
Il n'ose pas lui mettre. Et c'est sur ce genre d'action. Et justement, tu vois, Harit qui la donne à ce moment-là, bah, potentiellement, tu peux te dire, ah bah Aubameyang a fait un bon match. Mais parce que là, il a été servi. Et en fait, son importance dans notre capacité à se créer des occasions, pour moi, elle est trop importante pour se satisfaire de ça. Parce que je suis persuadé que des mecs comme Sarr et Aubameyang, aussi en forme soient-ils, je pense qu'ils ont besoin quand même d'être servis et ils le sont pas assez. Voilà. Après, voilà, on peut
Après,
trouver des excuses, hein.
je vais pas faire l'avocat du diable, ouais, ni chercher particulièrement des excuses, mais concrètement, il restait quand même sur 2-3 matchs mauvais. Là, je te rejoins sur ça. Honnêtement, je
Ouais,
trouve que
c'est.
son match d'hier, je le trouve plutôt OK, hein, par rapport à ce qu'il
Ouais,
aurait fait
mais c'est ça le
précédemment. Donc,
truc, c'est que
il a le
autant le
droit.
match contre Strasbourg, c'est
Ouais,
cata,
c'est nul.
l'Ajax,
Mais il a le
Ajax, ouais,
droit.
c'est pareil.
Il a le droit d'avoir un peu un manque de confiance parce que concrètement, la passe que tu cites là pour Ndiaye, je vois très bien de quelle action tu parles, ça m'a aussi marqué. Et ça, honnêtement, c'est des passes que tu tentes pas si t'es pas en confiance. Tu essaies de simplifier un peu plus ton
Ça,
jeu
je l'entends. Mais moi, je dis pas
et
qu'il est
ça,
nul, hein. Mais
malheureusement,
je constate
non, je
juste.
sais, non, mais
Voilà, tu vois.
je comprends ce que tu veux dire. Mais il faut encore une fois, c'est comme ce qu'on disait en introduction pour le match de l'OM, il faut voir où est-ce qu'on place le curseur. C'est pas normal qu'à ce stade de la saison, on soit ultra dépendant d'Harit. Normalement, on devrait
Ouais,
avoir
ça, on est d'accord.
un Amine Harit à ce stade de la saison qui commence à revenir en forme. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Il est revenu en forme 3 mois avant. On l'a dit déjà la semaine dernière. Il a le droit d'avoir un petit creux dans sa phase de reprise. Ce n'est pas totalement anodin. Et la réalité, c'est qu'en vrai, on va devoir composer avec Harit. Tu vois, donc,
Ça, je suis
j'ai pas
d'accord.
envie
Ça,
de jouer.
on est en
J'ai pas
phase.
envie de.
Je suis
J'ai
pas
pas
là
envie
pour
de
le
jouer
puncher dessus.
à ce jeu. Ouais, c'est ça. J'ai pas envie de tirer
Non,
sur l'ambulance trop fort parce que concrètement, la bonne saison de l'OM, elle est dans les pieds d'Harit pour moi. Donc,
puis il y a une solidarité
genre.
de.
Ouais. Non.
Non, mais j'ai compris quand je t'ai entendu sur Guiri. J'ai compris. Non, je rigole,
Non,
je
je suis pas dans ça.
Non, non, mais
Pour
je sais
Guiri,
bien, t'inquiète.
je l'aimais pas avant qu'il fasse ce choix-là.
Et surtout, tu sais, là, je réponds à un
Vas-y, vas-y,
message dans le
vas-y.
chat. Il y a Harit, pour moi, si le projet était pertinent et cohérent, Harit n'aurait pas eu autant de responsabilités sur le dos. Mais pour moi, tu sais, dans un match comme hier où tu as une ligne offensive de 5, alors ok, Harit, c'est un premier relais, mais normalement, il devrait avoir un relais un peu plus haut ou peut-être à la même hauteur que lui, qui s'appelle Illiman Ndiaye. Mais le problème du truc, c'est que le mec, j'en reviens au choix de disposition de Gattuso, c'est que. L'autre joueur sur lequel tu pourrais compter et tu pourrais espérer que les deux se partagent le lead de l'équipe et l'orientation des attaques et leur développement, il est collé à la ligne et il touche beaucoup moins de ballons. Et l'autre joueur qui est très à l'intérieur, c'est Sarr. Et enfin,
C'est pas ses qualités.
je
Non,
peux
c'est sûr, il y a.
comprendre qu'Harit, enfin, autant il avait déjà ce défaut l'année dernière, mais il était moins. En fait, il y avait tellement de solutions l'année dernière que ça faisait moins défaut, tu vois. Et il avait un Sanchez à côté de lui qui aimantait aussi beaucoup le ballon. Mais cette année, ben quand tu vois le match de Naï, la proposition, elle est pauvre. Quand tu vois le match de. Et encore, Unai,
Ben,
franchement, j'ai revu le match.
En vrai,
Il
c'est un.
évolue plus bas. Donc, Harit, enfin, ce que fait Unai, Harit ne pourrait pas le faire. Et ça va, il y a des trucs frustrants. Mais c'est pas son plus mauvais match. Par exemple, l'entrée contre Brighton, alors qu'il entre frais dans un match où tout le monde avait 1 heure dans les jambes, c'était beaucoup plus risible. Mais le match d'Unai, franchement, c'est pas si mal. C'est pour moi le manque de. Harit gagnera en purifiant son jeu, mais il gagnera aussi quand le collectif aura un semblant de cohérence, tu vois.
Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur Harit et Alba, parce qu'en vrai, je veux bien parler de Unai et un peu du double pivot aussi, parce que pour moi, il y a des choses assez intéressantes sur
Vas-y,
ce
c'est
point-là.
votre camp sur Harit, Alba et Arides. Moi.
Harit, il a choisi déjà.
Non, mais après, sur Harit, je trouve que vous avez dit beaucoup de choses avec beaucoup d'arguments. Et pour le coup, j'avoue que ses performances, elles passent un peu à travers les mailles du filet. Mais après, je trouve que c'est aussi à contextualiser du fait qu'il est un peu surresponsabilisé. On attend beaucoup de lui. et que voilà, on attend de lui qu'il soit tout le temps au top du top. Bon, il revient des croisés. Moi, je suis content qu'il soit en mesure déjà d'enchaîner, parce que physiquement, je ne pensais pas qu'il aurait été en mesure de pouvoir enchaîner des matchs en tant que titulaire.
C'était à 15 ans.
De manière aussi, bah oui, autant de manière aussi récurrente.
Bah là, ça fait 13. Hein.
Et je trouve que physiquement, même, il est bien. Il est en mesure de faire 90 minutes sans problème. Il ne pêche pas physiquement, c'est très bien. Mais après, est-ce que voilà, est-ce qu'on est en droit ou pas d'attendre plus?
Ah, ça, bien sûr.
Moi, j'estime que oui.
Ah, ça, c'est sûr.
Et que même si, voilà, il y a tout un contexte à prendre en considération, mais maintenant qu'il est en mesure d'enchaîner, je pense qu'on est en mesure aussi de le juger en tant que personne intégrante de l'équipe du 11. Et en tant que, c'est pas, attends, il revient de blessure. Non, maintenant, il faut le juger en tant que tel. Et je suis d'accord avec Yous. Il peut, il doit faire beaucoup mieux. Et surtout sur les choix de passe, les prises de décision. Des fois, tu as l'impression, le temps que ça monte jusqu'à son cerveau, tu ne sais pas pourquoi il bégaye alors que... Enfin, je ne vais pas dire que c'est fluide en temps normal, parce que non. Mais il est en mesure de faire mieux. Et ça, c'est la chose qui me dérange un peu. Mais je ne vais pas non plus arriver à un point où... Enfin, c'est dur pour moi actuellement de faire un procès tant... Je trouve qu'il est trop sûr. Il est responsable.
Il est peut-être éméché pour ceux qui étaient là sur le stream hier.
Donc, j'ai du mal un peu avec ça.
Mais sur Harit, il y a Samy dans le chat qui a pas mal réagi. Et Samy, il est sur le banc avec nous. Je vais le faire monter. Puis voilà, de temps en temps, n'hésitez pas à monter sur le Discord si vous voulez participer au podcast avec nous. Samy, sur le sujet Harit, je ne sais pas si tu as entendu notamment la réponse d'Opti par rapport à ça. Toi, j'ai vu que tu as pas mal écrit ton avis là-dessus, mais si tu veux le développer un peu plus à l'oral, l'antenne est à toi.
Merci déjà, salut les gars, j'espère que ça
salut
va.
Salut Samy, ça va très bien et toi?
Ça va super. Et ouais, moi pour Harit, ce que je disais, c'est que les fois où il est vraiment bon, sous Sampa et sous Tudor, c'est quand il n'a pas non plus toute la responsabilité offensive de l'équipe sur lui, tu vois.
C'est vrai.
Moi, personnellement, Harit, je trouve que c'est pas normal que tout repose sur lui, tu vois. Et même, je suis d'accord avec Opti quand il dit que c'est pas normal que Ndiaye soit colle la ligne, et que c'est justement le fait que tu aies au moins deux joueurs créatifs qui combinent, qui fait que tu peux avoir de l'efficacité offensive. Je pense que tu peux pas leur en vouloir, en fait. Tu passes de la saison 21-22 où t'as Payet qui porte toute l'équipe pratiquement, même si, bon, je caricature un peu quand je dis ça, mais c'est lui qui est au-dessus, tu vois.
En vrai,
la saison 2022-2023 où t'as un collectif qui est super bien huilé et tout, c'est Tudor qui fait en sorte de valoriser tous les joueurs. Là, t'as un coach qui fait l'inverse. C'est un coach qui fait l'inverse, je trouve que au contraire de Tudor, tu vois, il diminue un peu le rendement de tout le monde. Et en plus de ça, t'as Harit qui, et lui, au contraire, il est, comment dire, il a un rôle qui est encore plus important que celui qu'il avait sous Tudor et sous Sampaoli, tu vois. Du coup, ces deux facteurs-là, ils font qu'il est obligé de baisser de niveau et de ne pas être à la hauteur, tu vois. Pour moi, c'est normal. Je ne peux pas demander à Harit de faire ce que faisait Payet en 2019-2020 sous Villas-Boas. C'est juste pas possible. C'est pareil pour Ndiaye. Ndiaye, il aurait eu besoin normalement d'au moins deux saisons dans un contexte favorable pour devenir un joueur sur lequel tu peux compter, qui te fait des différences, qui finit à 10 buts, 10 passes. Tu ne peux pas le propulser comme ça directement en tant que ce soit
en fait,
lui ou...
Le faire à deux, pour rebondir sur ce que tu dis, quand tu fais le parallèle avec Payet, c'est que avoir la porte de Payet, il pourrait le faire à deux réunis. Mais malheureusement, il y en a un qui est privé de son apport pour son positionnement. Mais par exemple, tu sais, pour atteindre ce que faisait Payet dans ses grandes saisons, il faudrait que...
Ouais, t'as la combinaison de Ndiaye et Harit.
Il faudrait Harit et Payet. Et Harit et Ndiaye dans le... en ouais, même temps,
je
vois.
Ouais, je suis d'accord.
Ndiaye a la capacité, en plus, de marquer. Il a fait une saison à plus de 15 buts la saison passée, donc... Je pense qu'il pourrait vraiment se bonifier l'un et l'autre. Je suis d'accord avec ça.
Ouais, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je dis que dans le projet, je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage que tu fasses le choix d'avoir un effectif qui n'est peut-être pas autosuffisant comme l'année dernière où tu avais quand même des mecs comme Guendouzi, Under, etc. qui faisaient en sorte d'avoir un vrai collectif. C'est dommage de prendre un entraîneur qui ne te valorise pas ces joueurs-là. Parce que du moment que tu fais le choix d'avoir de responsabiliser Harit et Ndiaye, autant prendre un entraîneur qui vraiment, qui limite, fait la tactique en fonction de tes joueurs, le peu de joueurs créatifs que tu as. Et Unai, c'est peut-être pas le même débat parce que c'est peut-être plus une question de performance pure et peut-être lui en vouloir plus que Ndiaye et Harit parce qu'il ne se la donne pas. Mais c'est le même débat, tu vois. C'est dommage d'avoir un entraîneur qui bride les joueurs, en fait.
Sur le match d'hier, en vrai, Unai, on peut pas lui reprocher grand-chose sur l'implication. Hein.
Ouais, moi, je l'ai trouvé pas mauvais hier, je suis d'accord. Après,
je mets un peu de côté son but, hein, qui est un éclair de génie. On sait de quoi il est capable, c'est pas tant ce qu'on lui reprochait. Mais en vrai, dans l'implication, il fait un match quand même assez abouti. En vrai, je voulais parler de ça, j'en profite du coup pour faire la transition. Mais,
vas-y.
Déjà, je suis ravi de voir Koundogbia à ce niveau depuis un mois. Je trouve qu'il a quand même des matchs plutôt aboutis et ce qu'il nous propose dans l'impact physique, c'est quand même assez précieux. Il récupère quand même pas mal de ballons et je suis content de voir qu'après son début de saison vraiment en demi-teinte, on commence un peu à revoir des bribes du joueur qu'on espérait. Mais encore une fois, j'ai déjà dit la semaine dernière, mais ce n'est pas des perfs de top milieu européen, mais c'est déjà un très bon milieu de Ligue 1 et en vrai, ça suffit en l'état. Mais par contre, j'ai un problème avec Koundogbia, c'est que je trouve que depuis qu'on est passé dans ce double pivot, et ça, on l'a appelé de nos voeux, je trouve qu'il condamne beaucoup son binôme du coup du double pivot à un rôle qui est assez ingrat. Et je m'étais déjà fait la réflexion avec Veretout, mais je trouve que là, c'était encore plus criant avec Adil Unai ce week-end, parce que je trouve qu'il a un positionnement, Koundogbia, qui est plus bas, et son binôme doit être légèrement plus haut que lui. Ils n'ont pas un partage du terrain un peu classique, avec un à droite, un à gauche et chacun gère son côté en coulissant. Et je trouve que ça demande beaucoup d'efforts à celui qui est à côté de lui et que ça soit Veretout encore plus, comme je disais, avec Unai, parce qu'en fait, il doit couvrir tout à la largeur du terrain un cran plus haut. Et forcément, du coup, le joueur s'expose un peu plus. Il est plus souvent en retard sur les phases de contre-pressing. Sur la phase avec ballon aussi, ça demande beaucoup plus de courses et c'est beaucoup plus difficile pour ces joueurs-là. Donc, je trouve que, en fait, certes, ça leur accorde un peu plus de liberté offensivement parce que du coup, ils peuvent se balader un peu sur tout le front de l'attaque. Mais il y a un équilibre à trouver justement entre cette liberté offensive que ça leur octroie et les responsabilités défensives et la situation dans laquelle ça place l'équipe sur la perte du ballon.
Non, effectivement, tu fais bien de parler de ces questions par rapport au positionnement et par rapport à tout ça. Et notamment, c'est vrai que Koundogbia, sur le dernier mois, c'est peut-être... je suis en train de réfléchir, mais je me demande si ce n'est pas le meilleur joueur au global.
Ouais, il y a Veretout, Klose qui peuvent être...
Ouais, après Veretout est sorti sur blessure. Là, il est rentré, il n'a pas joué. Enfin, il s'est blessé, mais ouais, effectivement. Klose sont aussi, je pense, dans la discussion. Je voulais lancer un petit... Ouais, vas-y.
Non, je dirais, l'homme du match hier, ça a été Amin Harit qui a été élu.
Ouais, bah tant mieux. Mais j'apporte pas de crédit à un trophée d'homme du match sponsorisé par cette marque. Non, mais plus sérieusement, voilà, tu vois, je me posais la question, si on part dans un... Bon, ça sera pas le cas mercredi, on va parler de mercredi, on va parler notamment du dispositif qui risque d'être mis en place parce qu'il y a beaucoup d'absents, il y a plus trop de choix, du coup. Mais dans l'absolu, je me demandais, si on part du principe que voilà, Gattuso va jouer avec un seul, enfin un, voire d'autres plus bas, mais joueur axial offensivement, quitte à en avoir un sur le côté, vous préférez avoir Harit plus axial que Kiliman ou l'inverse? C'est peut-être pas réfléchi à la question. Je vous prends dépourvu.
On a perdu Ariles, par contre.
Ouais, Ariles a dû se déconnecter.
Alba, quand t'es intervenu.
Vous connaissez mon avis, hein, moi, non. Je pense que c'est. Je m'en cache pas.
Franchement, déjà, aucun tu me prends dépourvu. Ouais, j'ai pas réfléchi. Moi, je partirais plus sur Hillman, en vrai. Hein. En vrai, hein, je partirais plus sur Hillman. Axial. Il y a Harit un peu côté.
Mais il n'est pas suspendu, Hillman?
Non, ouais, je ne parle pas de Lyon. Hein, je parle dans l'absolu. Oui, c'est une question un peu... Non, dans l'absolu, je pense qu'on ne verra jamais, d'ailleurs. Hein,
Hillman,
ce que je dis.
Hein, moi, je verrais bien Hillman, franchement. Déjà, on a vu un peu ce débat-là.
Ricardo Kaka sur le côté, du coup. Bizarre.
Ah ouais, bah après, il ne sera pas vraiment sur le côté, tu connais. moi, franchement, j'ai toujours été, depuis le début de saison, partisan de que ce soit Hillman qui ait une position axiale et Harit sur un côté, parce qu'Harit à droite, que ce soit... même je le préférais plus à droite, avec Klos derrière lui, où il peut naviguer intérieur, extérieur, les deux, ils se complètent très, 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 très bien. Et c'est mieux, tu vois, et ça permet, après, il faut trouver quelqu'un à gauche, du coup. Et je pense que ça sera Correa, logiquement.
Il est blessé.
Oui, bah après, on parle vraiment dans une optique où on a tout le monde à 100%.
Ouais, voilà, c'est vrai.
Mais au vu de Gattuso, qui veut majoritairement un droitier à droite ou un gaucher à gauche et un faux pied à l'opposé, bah, dans cette optique-là, Correa, logiquement, il serait titulaire. Mais moi, ça, c'est quelque chose qui peut se tenter. En vrai, t'es pas perdant, je pense. Et après, c'est une question d'animation, mais moi, je mettrais plus Ilman, plus Ilman que Harit.
Ok. Et toi, Younes, tu...
Pour le coup, moi, j'ai vraiment envie de voir les deux associés dans l'axe du terrain.
Oui, donc, mais c'est pas ça la question.
Ouais, non, mais je comprends bien, mais du coup, si on doit répondre à cette question-là, et c'est pas forcément ce que j'ai envie de voir...
voilà, non, bah, tu dis en avant-propos hein, pour dire aux gens, en gros, même si je vais répondre, c'est pas ce que je veux.
Je préfère avoir Harit en 10 et NJ à droite dans ce cas-là, plutôt que Harit sur un côté et NJ dans l'axe. Parce que pour moi, NJ à droite va avoir justement cette faculté à être toujours dans le demi-espace, d'être plus proche de Aubameyang, de pouvoir combiner avec Harit, puisqu'il laissera le couloir pour Klos. Et en vrai, je pense que c'est la meilleure configuration pour associer les deux. À défaut de les mettre, bien sûr, tous les deux dans un poste axial et de partager le rôle de numéro 10.
Ok. Et toi, Opti, pour finir
pour accompagner... Moi, c'est l'once dont je parle. C'est comme en début du live. Hein. Moi, je veux Sarr à gauche. Et Ilman Harit, un axial et un à droite. Mais au final, dans les faits, même avec ce qu'on voit actuellement, hein, les deux se retrouvent... celui qui évolue à droite se retrouve axial. Bon, malheureusement... En ce moment, c'est une assort. Mais
okay.
Je vois pas de différence en fait entre l'offensive qui évolue à droite et qui après se retrouve axial et l'offensive qui évolue axial tout le long du match.
Bah, moi, je vois par contre la différence entre le Ilman du début sous Marcelino, il était vraiment soutien d'Aubameyang, et le Ilman qui est à droite ou à gauche. Depuis Gattuso, c'est surtout ça, moi perso, qui a inspiré cette question. Et je me dis qu'en fait, ce que fait Harit en 10, il y a eu du bon, hein, ça, je ne le renierai pas, hein, c'est pas parce que je le taquine là, qu'il y a eu du bon Harit dans l'axe, mais je trouve que potentiellement, le plafond d'Ilman dans cette zone-là peut être beaucoup plus haut. Et je me dis qu'on perd quelque chose. Voilà. Après, effectivement,
moi,
dans une animation à l'endroit, la question ne se pose pas, c'est sûr.
Non, mais ça, je suis d'accord à 100%. Je préfère Ilman Axial et Harit dans ce... Parce qu'à droite, c'est un faux débat, tu vois, parce que c'est
non,
pas vraiment...
Non, mais... c'est pas vraiment... C'est pas pour manger la ligne, parce que tu sais que t'as Klos qui va le faire.
Ouais, il va rentrer. Non, vraiment, ça, c'est la compo...
Mais limite, ouais, je dis à droite, mais en soi, c'est pas vraiment... Et moi, j'ai tendance à me dire que c'est peut-être la zone du terrain où Harit peut être le meilleur, tu vois, où il va être sur son pied et les espaces qu'il aura devant lui vont l'obliger, et potentiellement avec un Klos à côté, tu ne peux que être plus confiant dans les transmissions, tu vois, si c'est un truc qui lui manquait. Après, on est dans le...
Harit, en plus, je trouve que, bah, d'ailleurs, on a un peu oublié ça, mais sous Tudor, il jouait du coup 10 à droite.
Ouais.
Et je trouve qu'il est même dans ses prises de balle, il est meilleur quand il est un petit peu excentré que quand il est vraiment au poste. Oui, excentré, hein. Ouais, excuse-moi, à gauche. Du coup, je trouve qu'il est meilleur quand il est vraiment pas complètement dans l'axe plutôt que quand il est vraiment au centre du terrain. Que ce soit dans ses prises de balle, dans ses prises de décision, même les passes, par exemple la passe qu'il rate à un moment donné quand il doit la donner à NDI. Déjà, je trouve que c'est une aberration que Sarr et Klos soient sur le même côté. Du coup, ça, tu peux considérer que Sarr à gauche serait la meilleure solution s'il le refait, comme le Havre. Je pense que si tu mets Harit à droite avec Klos qui serait un peu plus offensif que Lodi à gauche, Harit qui est un peu plus dans le demi-espace, NZI derrière, en plus comme on défend en 4-4-2, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu sous Marcelino avec les deux devant, Aubameyang et NZI. Et derrière, après, bon, ce que disait après, ce qu'a dit, je crois, Alba sur Kondogbia, comme quoi il limitait un peu. C'est tout le problème de la compo, en fait. Vu qu'on attaque à 4 avec les deux latéraux derrière, on prend forcément des vagues. Du coup, forcément, Kondogbia, derrière, il se retrouve inondé. Il ne peut pas tout faire, tu vois. C'est ça qui fait qu'un peu... Moi, je pense qu'intrinsèquement et individuellement, c'est peut-être le meilleur joueur de l'effectif, tu vois. Mais le fait que la compo, même pour lui, elle n'est pas forcément adéquate, ça fait qu'il sous-performe un peu par rapport à ce qu'il pourrait faire. Mais ouais, par rapport au débat de qui à droite, moi je pense que Harit à droite, ce serait la meilleure solution. Et c'est à tester parce que là, on a pratiquement tout testé. Si on peut juste revoir ce qu'on a vu au Havre sur un match, peut-être avec une meilleure adversité, de toute façon, ça ne nous coûte rien. En championnat, de toute façon, si on bat Lyon, à la limite, ça peut devenir intéressant d'essayer d'enchaîner les
À
résultats,
Lorient,
etc. Mais si
peut-être.
tu perds à Lyon, là, si tu perds à Lyon ou si tu perds à Lorient, franchement, autant essayer de changer quelque chose. Parce que là, il nous met la même compo depuis 4-5 matchs. Je comprends pas pourquoi il n'essaye pas de remettre Sarr à gauche et de mettre Harit ou même, je sais pas, Correa à droite, tu vois, pour essayer d'avoir Clauss d'un côté et Sarr de l'autre. Parce que
Ouais, non, il a pas trop envie, apparemment.
je comprends pas, vraiment, je comprends pas. Parce que je vois pas en quoi ça indique. C'est pas non plus un changement de système, c'est pas non plus. Je sais qu'il est frileux sur le passage à 3 derrière. En conférence de presse, j'avais vu qu'il avait pas très bien pris la question qu'on lui avait posée. Mais
Bah, ça
juste.
dépend quand c'est qui lui pose. Hein. Quand c'est Romain Canucci, il s'énerve. Mais quand c'est Nordine, il était
Ouais,
bien,
il y avait une question de
bien gentil. Hein.
Il sait avec qui faire le fou. Hein.
Il sait avec qui crier. Hein. Et j'ai trop rigolé quand j'ai vu la différence de réaction, frère.
Vas-y, vas-y, Samy,
Du
t'inquiète.
coup, ouais, du coup, je sais pas pourquoi il essaye pas en fait.
Non,
Je sais
mais
pas pourquoi il essaye
on
pas
est
et je
complètement
me demande
d'accord.
même pourquoi. Je me demande même si ça peut pas venir d'un membre du staff ou de Longoria directement, parce que je pense que Longoria elle a minimum son mot à dire là-dessus, tu vois, je suppose. Mais je comprends pas pourquoi. Mais rien qu'au niveau du recrutement, le fait qu'on ait mis 17 millions sur Sarr et qu'ils sont mal exploités, je pense que ça fout un peu le mort à Longoria, même pour Illiman, tu vois. Je pense
Ah, surtout
que ils sont
Liman, ouais.
pas les actifs, ils sont pas valorisés. Tu peux même pas. C'est des jeunes joueurs, tu vois. C'est des joueurs qui dépassent pas 25-26 ans. C'est aussi la raison pour laquelle on les a pris. Du coup, c'est contre-productif au niveau des résultats et même au niveau de la valorisation de tes joueurs, tu vois, de pas avoir un rendement qui est en adéquation avec les montants que tu as mis, tu vois. Du coup, moi je comprends pas pourquoi ils s'entêtent là-dedans. Je sais pas pourquoi c'est. Ça peut-être même. Peut-être venir d'un autre membre de niveau du club, tu vois, que ce soit Pancho ou je sais pas moi, tu vois.
Ouais,
Ouais, je
non.
pense qu'il a besoin de personne pour se saborder. Je
Ouais.
pense qu'il l'a fait tout seul comme un grand.
Mais ouais, mais du coup, on parle de dispo, de positionnement, tout ça. Pour finir, vu qu'on est sur le match de Lyon dans 2 jours, hein, il y a beaucoup d'absents. Donc, a priori, le seul choix possible. Enfin, non, en vrai, il peut nous surprendre. Hein, mais concrètement, devant, il y a seulement Sarr, Harit, Aubameyang et Vitinha de disponibles. Au milieu, il n'y a que Unai. Il n'y a que Ounahi, Veretout et Kondogbia. Et bon, derrière, de toute façon, même quand par exemple Balerdi est dispo, il joue plus trop ces derniers temps. Là, concrètement, là contre Lyon, on part vraisemblablement sur un 4-3-3. Vous voyez une petite surprise du chef, un Nadir Titu, un
Ça dépend
Soko.
du positionnement de Unai, je pense. Soit tu peux considérer que c'est un 4-3-3, soit il peut peut-être le faire jouer. Parce que là, dans tous les cas, tu as soit Aubameyang à gauche dans le 4-2-3-1, soit personne. Du coup, peut-être qu'il va peut-être placer Unai un peu excentré, ou carrément un 4-3-3. Mais je pense que ça reviendrait un petit peu au même dans tous les cas, tu vois.
Ouais, à voir, effectivement. Alba, t'en penses quoi, toi?
Moi, je partirais plus. Bon, après, en vrai, ouais, plus 4-3-3. Mais avec. Je pense qu'on va partir sur Aubameyang, Sarr. Et il va envoyer Harit à gauche, probablement. Et
À
Ounahi, du
droite.
coup. Ouais.
Ouais,
Et
à
Sarr à
droite.
droite. Je pense que ça sera comme ça.
C'est vrai que là, concrètement, s'il met Harit à droite, Sarr à gauche. Et un 4-3-3, on est potentiellement
Ouais, on est
sur un
sur ce qu'on
système qui peut
espère.
révéler des
Ouais.
choses, non?
On est,
Sur ce
ouais, on est
que
sur ce qu'on
beaucoup veulent.
espère, juste qu'il n'y aura pas Illiman,
Ouais,
tu vois. Mais
après, s'il faut faire des choix, écoute.
du coup,
Mais
si ça marche bien, tu condamnes un peu Illiman, du coup, si ça marche vraiment
c'est
bien
aussi
contre
le
Lyon.
point. Mais par exemple, tu vois, même on parlait de Veretout. Moi, je préfère largement Veretout dans ce rôle, quand il est pas forcément double pivot, mais plus en relayeur avec plus de liberté. Je le préfère
Veretout, je
largement,
trouve
tu vois.
son plus gros atout à Veretout, c'est qu'il est vraiment bon
Dans la
dans
projection.
toutes les circonstances, franchement, quel que soit le système, quel que
Ouais,
soit.
ça
Je
c'est
trouve
vrai, mais.
Ah,
il a un
c'est
niveau
énorme.
qui est quand même. Je trouve franchement, il y a des trucs que tu peux lui reprocher, etc. Mais sur ce point-là, au niveau de la comme régularité quoi, du joueur, c'est franchement c'est fort. Moi je trouve que c'est fort ce point-là. Hein.
T'as des trucs à les reprocher, dis-moi.
Ah Veretout ?
Ouais. Pas le football.
Bah ouais, quand même. En vrai, quand même, tu vois, mais.
Non, t'as compris, je suis un gros con. Hein, non, mais je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'on en tire la quintessence quand il a la capacité à se projeter. Parce que c'est un mec qui est extrêmement rapide. Il peut répéter les efforts, même dans les. Tu vois. En plus, tu vois, tu m'as entendu, j'ai tensé Harit sur ses transmissions. Lui, pour le coup, dans les transmissions, c'est souvent très bien senti quand il se projette. Donc moi, c'est pour ça que j'aime bien le voir, dans ce rôle-là. Mais après, c'est vrai que en dehors de tout ça, je pense que c'est un indiscutable cette saison. Tout le monde sera d'accord avec ça. Younes est opti peut-être pour finir sur l'Olympico. Vous l'abordez comment ? Il y a une espèce de petite vague de méfiant, de peureux.
Bah, comme toujours, quand t'as un club qui change d'entraîneur. Et
Lyon n'a toujours pas gagné de match à 11 contre 11.
De surcroît quand c'est un entraîneur qui a beaucoup de qualité. On a introduit l'émission en parlant du Red Star et des progrès que Habib Bey a fait. En l'occurrence, Pierre Sage était dans son staff. Et c'est clairement lui qui a travaillé sur... Le système mis en place à l'entraînement et la méthodologie d'entraînement, elle est dessinée par Pierre Sage. Habib Bey le reconnaît de lui-même. Donc, ils ont proposé quelque chose d'assez cohérent samedi à Lens. On connaît leur faculté à venir briser nos espoirs et nos rêves au Vélodrome. Donc, j'ai pas envie d'être l'oiseau de mauvaise augure sur ce match-là. J'ai toujours du mal dans cet exercice quand il faut parler des matchs à venir. J'ai tendance à être soit trop optimiste, soit trop pessimiste.
L'optimiste peut-être pour le mot de la fin par rapport au match de Lyon. Non, ok.
Ouais, excuse-moi. Il y a Alba aussi.
Mais ouais, bah Alba, je sais. Non, mais c'est vrai que j'ai pas Alba, excuse-moi, mon frère, je t'oublie.
Le match de Lyon, enfin, on parle d'une équipe qui a gagné qu'un seul match de. Enfin, ils ont changé d'entraîneur, mais la réalité, c'est que les 11 joueurs qui l'ont joué, c'est des joueurs qui ont gagné qu'un seul match de championnat en 13 matchs. Et même si on remonte à la prépa, je crois qu'ils ont 2 victoires en 20 matchs, tu vois, depuis le début de l'année. Donc, ok, on aime bien Pierre Sage et ça a l'air d'être un mec qui a une bonne vision du football, mais ça fait que 5 jours qu'il est en poste et les joueurs, ils n'ont pas changé. Les problèmes de sa défense centrale, c'est toujours les mêmes. Enfin, t'es dans un match où peu importe qui arrive à envoyer 2-3 ballons au BAM, tu peux penser que Lovren il va rester sur le carreau, tu vois. Et qu'au BAM pourrait marquer un 5e but en 3 matchs au Vélodrome. Je pense que ça peut bien se passer. Après, si ça se passe mal, c'est la fin de la saison. Par contre, c'est fini.
C'est vrai que ouais, après t'avais la rumeur hein, il y a quelques jours qui disait que Gattuso était menacé. Concrètement, si ce genre de match tu le pommes, ça peut être le genre de match qui peuvent te sceller ton.
Ouais, parce que là il a gagné son faux premier gros match contre Rennes. Lyon, ça reste un gros match peu importe leur classement. Mm-hmm. Il gagne autant s'il gagne, il va s'acheter un peu de paix sociale, même s'il ne va pas rentrer dans les cœurs des gens. Au moins, si jamais la question chez les dirigeants s'était posée, il va gagner du temps. Mais s'il ne gagne pas, je ne sais pas s'il réagirait dans l'urgence. Mais en tout cas, pour moi, si tu ne gagnes pas Lyon...
Oui, il peut partir, oui. Tu peux le dire. Hein.
Ah oui, non, il peut partir. Non,
il peut partir. Hein.
Oui, il peut partir.
À un moment, un chat, hein, il peut partir. Ah non, je n'ai même pas besoin de... Je pense que tu peux pas.
Non, t'as mais pas le droit. Je prenais même pas des gants, tu vois. C'était juste le côté, j'espérerai plus rien, tu vois. Autant ouais. Là, j'espère encore un peu. Mais là, s'il ne gagne pas, ben, soit il dégage et peut-être celui d'après me ferait espérer. Soit c'est lui qui reste et définitivement...
Franchement, moi, dans ma position, j'avais le démon que le match soit reporté parce que je me disais, ils sont tellement nuls qu'on pouvait leur mettre un 5-0. Et sans en qu'il fait, y ait débat. Tu vois, et en fait, ouais, bon, ça va, c'est tarif 4. Obligatoire. Tu vois. Là, du coup, on est passé à 3-4. Plus ou moins, parce que de 98% de chance de gagner, je pense que c'est juste descendu à 96.
Ouais.
Mais si
Si, moi, je suis désolé, je reviens l'année dernière. Je me suis promis de... L'année dernière, on nous a dit, ouais, mais Lyon, ils sont nuls. C'est normal de faire 6 sur 6, grosso modo, dans les grandes lignes.
Oui, oui, bien sûr.
La première victoire
en 16 ans à Lyon, c'était normal.
Voilà, c'était normal. La première fois qu'on fait 6 points depuis 2003, je crois.
Mais c'est normal, Alba, c'était normal.
Mais là, si tu ne gagnes pas, quel que soit le scénario du match, j'en ai rien à cirer qu'on soit 10 contre 11 à la 3e. Ce n'est pas mon problème.
Ouais, c'est ça, faute sur 10 contre 11. Si Gigo tue quelqu'un
c'est sa faute. si mercredi tu gagnes pas contre le pire Lyon que nous de la génération qu'on est connu, c'est le pire Lyon.
Et la génération elle est large.
Hein. Et elle est large. Elle est très large.
C'est le pire Lyon de l'histoire.
93, il y en a, ils sont peut-être nés en 2001, 2002, 2003.
Alors peut-être. Ouais.
C'est le pire Lyon qu'on a tous vécu. Mais si tu ne gagnes pas là, si tu veux faire une deuxième réunion avec Longoria, je suis peut-être avec vous.
Est-ce qu'une défaite contre Lyon, c'est pire que la défaite contre Annecy l'année dernière ou pas?
Non.
Ah, humiliation, oui. Mais sinon, non. Humiliation, oui, tu perds.
Défaite 2-0, 2-0 contre Lyon.
2-0, 2-0 et tu n'as pas vu le jour, ouais, c'est dur. Parce que c'est vraiment une des pires équipes de Ligue 1 là, sur les dernières années.
Bah, je pense qu'une défaite contre Lyon, c'est l'équivalent de... Enfin, pour moi, elle peut faire dégager Gattuso dans le sens où une défaite contre Lyon 2-0, c'est l'équivalent de 3 défaites consécutives que tu enchaînes.
Bah, surtout que lui, il insiste depuis 2-3 semaines sur ses « Ouais, je préfère perdre comme ça que perdre 4-0. » Je ne sais pas,
c'est quoi
son raisonnement à la con là, qu'il a depuis 2-3 semaines. Bah, j'espère pour lui que... Il ne va pas sortir une pirouette si ça se passe mal. Parce que ça ne peut pas ne pas. Il n'y a pas d'autre scénario possible. Ce n'est pas possible.
Il n'y a rien d'autre.
Voilà, parce que même une victoire 1-0 tirée par les cheveux, on sera très exigeant là-dessus. Parce que franchement, j'insiste, mais c'est la pire équipe de Ligue 1. Il n'y en a pas une en dessous. Il n'y en a pas.
En fait, ils sont derniers, en fait.
Ils sont derniers. Genre, ils ne sont pas derniers. Ah, peut-être que... Non, ils sont derniers.
Ils sont derniers avec les temps de passage d'Arlavignon, de Dijon, de Angers.
Voilà, ils sont sur des standards historiques. Là, on n'est pas sur...
Ils ne sont pas on juste derniers, pas... en fait.
Et on n'est pas en septembre. On est en décembre.
Et le seul match qu'ils ont gagné, ils sont à 11 contre 10 au bout de... Combien 5 minutes
Ouais, 5 minutes.
Voilà,
et l'entraîneur adverse est un ancien de la maison. Enfin, il quittera son poste 10 jours après. On peut se poser des questions.
Non, franchement, j'espère juste une victoire avec la manière. Et comme j'ai dit lors de mes derniers passages, ce qui compte à un moment dans la victoire, c'est aussi enchaîner. Et faire 3 victoires d'affilée.
Ovel en plus.
Ovel. Wow. S'il y a bien un truc qui peut te remobiliser et te rebooster, bien que moi j'ai pas été d'accord, on n'a pas trop parlé des déclarations d'après match, ouais, match référence par-ci, par-là. Là pour le coup, tu fais 3 victoires à domicile contre quand même des bonnes équipes, même si ça reste le dernier de Ligue 1, ça reste un Olympico, ça reste Rennes, ça reste l'Ajax, il y a un certain prestige. Ouais. Tu fais 3 victoires d'affilée à domicile, ben, c'est très bien, sachant que tu peux terminer.
On a vaincu.
Voilà, tu t'enchaînes.
T'es encore invaincu au Vel.
Voilà, t'enchaînes et tu peux peut-être, il va rester quoi, 2-3 matchs de Ligue 1, bah peut-être que tu peux faire espérer un 9 sur 9. Et là, tu es dans une magnifique série et tu pars en vacances tranquille.
Et là, de Monaco.
Voilà, et là, tu rejoues le titre.
Mais le truc, c'est que pour moi, si on gagne, ça peut enclencher un truc positif et tout, mais je vois pas comment ça pourrait être bénéfique sur le long terme, parce que niveau des intentions de jeu, ça doit
conduire
à des trucs concrets. C'est ça qui me fait chier, en fait, c'est que d'un côté, j'ai envie qu'on gagne, parce que ça peut vraiment être pas mal d'envisager la suite avec 4 points de retard sur Monaco seulement. Après, sur si on se qualifie en Europa League, du coup, en 16e ou en 8e, et qu'on devrait enchaîner en février avec la CAN, etc., etc., avec Gattuso, je vois pas comment ça va... Je vois pas comment ça peut être positif pour la suite, tu vois.
De mon importance du contenu contre Lyon, qui sera... Ça sera...
Est-ce que si on fait un gros match contre Lyon, tu vas considérer ça comme positif pour la suite ou tu te diras bah c'est Lyon, je suis encore heureux.
Non, mais après tu peux plus capitaliser sur un gros match contre Lyon que capitaliser sur les matchs. Un gros mot sur les deux derniers matchs, mais t'as plus match à capitaliser sur un très bon match contre Lyon Parce qu'il y a quand même une donne psychologique à prendre en considération. Il y a une pression. Hein. Parce qu'on peut dire qu'ils sont derniers, mais tu as aussi le truc de passer pour un con. Et le fait que Lyon, ben, déplacement au Vélodrome, il n'y a plus rien à... T'as plus rien à perdre. Et peut-être que, vas-y, pire ça, Union Sacrée, vas-y, électrochoc, tous les grands mots superlatifs là, qu'on peut utiliser, c'est peut-être le bon moment. Bah, y a quand même une certaine pression. Et si tu arrives à sortir, bah, même si pour moi c'est la moindre des choses, une victoire avec du contenu, avec un score, bah, tu peux plus capitaliser dessus que sur les pseudo-bon match contre Rennes et le pseudo-bon match contre l'Ajax. Et là, pour moi, tu peux enfin enclencher une vraie série.
En plus, pour moi, en plus de tout ce qu'on a, tout ce dont on a parlé, il y a aussi le passif contre Lyon. C'est une équipe. On se fait dessus contre eux depuis 7-8 ans. Et ça, faut pas l'oublier. Donc, de un, tu as le fait qu'ils soient derniers. De deux, tu as le fait qu'ils soient derniers et que ce soit l'un des pires derniers de Ligue 1 sur les dernières années. De trois, tu as le passif contre Lyon qui fait que tu n'es jamais serein contre eux. Franchement, moi, c'est un match qui me fait peur, hein, ouais. Honnêtement.
À voir. Ouais, vas-y,
et pour finir, si on peut juste, pour conclure, si on peut participer à leur descente en Ligue 2, on va pas se gêner. Si on peut amener notre petite pierre à l'édifice, enfin, voilà.
On verra bien. Rendez-vous mercredi soir pour débriefer ce match qui sent la poudre, en espérant avoir des choses positives à raconter. Merci en tout cas, merci Alba, merci Opti, merci Younes et merci Arides qui était là mais qui a dû nous quitter. Merci aux membres du chat et merci aux membres du chat qui est monté avec nous dans le Discord. Samy, merci à toi pour ta belle prestation.
Merci à toi de m'avoir fait monter. Merci.
Non, mais merci à toi. Hein, vous êtes chez vous et là, je te dis, t'es comme chez toi après ta prestation. Non, ça fait du bien d'entendre des nouvelles voix. Et du coup, merci à tous. À très vite.
Merci à tous.
Peace.
Ciao l'équipe.